18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h-20h sur l'antenne de Beurre FM. Je vous rappelle que Beurre FM, c'est une vingtaine de fréquences à travers la France. Vous allez sur le www.beurrefm.net pour voir où est-ce que vous pouvez nous capter, mais également sur le DAB+. Là aussi, vous découvrirez les zones que nous couvrons aujourd'hui, sans oublier pour ceux qui sont en voiture avec leur autoradio, bien si vous êtes par exemple avec votre application via le téléphone, en fait vous avez tous les moyens pour nous suivre, y compris nos fidèles auditeurs qui sont aussi bien au Canada, aux États-Unis, qu'en Algérie, au Maroc, que je salue puisque je les salue avec un Esguassam Gaz de Yenayer de 1974, nouvel an berbère, et il va de soi que c'est le farah, comme on dit, c'est avec joie. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de retrouver ce que j'appellerais l'identité de ce qui a fait ce peuple millénaire de 1974, comme on dit, Allah Ibarak. Ça fait plaisir à entendre. En tous les cas, une actualité qui va être extrêmement chargée. Pas que la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'aujourd'hui, on va nous intéresser autour de la CAN. Et vous allez comprendre que le fait que les calendriers soient de plus en plus raccourcis, eh ben, fait grincer des dents, ça fait pleurer certains, mais la règle, il faut l'accepter telle qu'elle.
Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Et forcément, pour analyser toute cette actualité, vous avez le 0153 48 3000, mais également notre coach qui est présent avec moi. Quand il est arrivé, il était complètement frigorifié. Ah, il est heureux de retrouver la chaleur du studio de Beurre FM. Salut, coach.
Bonjour à tout le monde. Auditrice, auditeur, et bien, Mohamed, je te sens, t'as du gaz. Hein. Bon. C'est la Coupe d'Afrique qui prend comme ça ou
J'ai l'impression, ouais.
C'est les Qataris.
Les deux, parce que moi j'adore l'Afrique, c'est quand même notre continent, et puis berceau de l'humanité, quoi qu'on le veuille ou non.
C'est clair, ouais. C'est un minimum ça.
Exactement.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui. C'est reconnu.
C'est reconnu, enfin.
C'est reconnu, c'est bien, parce qu'il y a des années, on n'entendait pas parler de ça. Hein. Maintenant, on voit partout des associations qui créent des. Ça va devenir quelque chose de très. On voit des politiques qui se déplacent.
Oui.
Ils souhaitent. Je lui dis, ouais, mais parce que t'as vu, ils prennent en compte la nature du public et le respect. T'as vu, dans ce moment-là, le vivre ensemble, il marche bien. Hein. L'air de rien.
Ben, mine de rien.
T'as vu, ouais. Parce que moi, j'ai vu, j'étais à un truc politique, là, hier. Politique.
Oui.
Puis t'as ça, c'est tout tranquille. Et tu vois que le maire s'est déplacé avec tout son état-major. Même si c'était pas nombreux, mais bon, c'était bien. C'était tranquille. Bonne musique et c'était gentil, franchement.
Ah, oui, c'est sympa.
Les 7 légumes.
Eh oui, c'est Baïsoufer, comme on dit au Kabyle. Oh, bravo, coach.
Mais on progresse. On sait, on connaît. Non, mais c'est bien, franchement, c'était une petite soirée sympa. Tranquille.
Tu vois, coach, on s'intéresse à l'actualité, mais au sens le plus large du terme. On a l'habitude ici d'avoir un regard différent.
Pertinent.
Des fois aussi, on est un petit peu, je dirais, un peu caustique. Hein, c'est-à-dire qu'on titille sur le. C'est le principe même de cette émission, sinon elle n'a pas de sens.
C'est ça la démocratie.
Voilà.
La République, elle commence là.
Le respect de la parole de l'autre, tout simplement.
Oui, bien sûr.
On peut contrer par argument contre argument.
Maintenant, aujourd'hui, on fait attention parce qu'on ne sait pas, quand tu dis des choses, si tu vas te retrouver au tribunal.
Oui.
Donc, on fait gaffe à ce que tu vas dire.
Oui.
Même les allusions, on risque.
Ouais.
Alors après, c'est les intentions qu'on va juger. J'ai senti dans tes yeux qu'il y a une intention.
Tu me prépares. Oui.
Ouais, c'est un truc de fou. C'est le bref. Non, c'est.
Alors, on va s'intéresser. Comme je l'ai dit, déjà, il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré hier samedi. Mm-hmm. Tout le monde sait que cette édition se déroule 40 ans plus tard en Côte d'Ivoire, puisque la première, c'était en 1984. À l'époque, je crois que c'était le Cameroun qui l'avait gagné, mm-hmm. il me semblait, puisque l'Algérie était battue au pénalty en demi-finale.
Mm-hmm.
Ouais, c'est d'ailleurs contre le Cameroun.
Je me rappelle, son match de 84.
Ouais.
Les installations, les infrastructures sont bien là-bas. Je n'ai pas entendu.
Apparemment, ça va. Ils ont. J'ai vu les enceintes quand même. C'est bien. Ouais. Et puis, du coup, maintenant tout le monde est installé sur place.
Ouais.
Ça y est, la compétition est partie. C'est le plaisir même. C'est, en fait, moi j'ai l'impression, Nasser, que une fois que le premier arbitre donne le coup de sifflet,
c'est fini.
Ouais. Après, on est dans l'ambiance des matchs. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça. Je connais bien ces moments-là. En Coupe d'Afrique, c'est pesant pour les sélections quand tu arrives, tu t'entraînes toujours. Il n'y a pas la compétition, tu vois. Mais dès que la compétition commence, c'est fini. Les jours passent vite, tout passe vite, les matchs sont là. Mais moi, j'ai cru entendre que Belmadi n'était pas d'accord avec le bus que m'ont donné les Ivoiriens. J'ai vu ça.
Non, parce qu'en tout cas, au Togo, il a eu un beau bus. Hein. Moi, je l'ai vu. Hein. Quand ils ont passé leur stage, fait un stage au Togo.
Ouais, mais quand ils étaient en Côte d'Ivoire, j'ai entendu. Mais alors, je demande aux auditeurs qui sont plus pertinents que nous, peut-être, qui peuvent vérifier l'information, de savoir s'il y a eu vraiment. Belmadi a été mécontent du bus qu'on lui a donné. Il comparait ça au bus de la Harlache.
Ah.
C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, je mets ça avec des suspens, avec des points d'interrogation et de suspension. Tout va avec derrière. Mais bon.
Par contre, ce que j'ai remarqué par rapport justement à cette sélection algérienne, on voit bien que, regarde Nasser, les favoris ne parlent pas. Tout le monde se focalise sur la sélection algérienne, y compris l'espionnage par un drone. Tu vois, c'est.
Ah oui.
La sélection a été espionnée par un drone. Ouais. Bon, bien sûr.
C'est James Bond, 008, pas 7, 008. Mais c'est de bonne guerre, man. C'est du truc à deux balles, ça. Ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les choses sont faites déjà.
Oui.
Les préparations sont faites, ils les ont fait chez eux. Ils viennent là, ils vont faire de la routine. Ils entretiennent le corps, bon, travail physique, tout. Après, tu vas regarder quoi? Il n'y a rien à regarder.
Ah, je pense que déjà, dans la tête de Jamel, l'équipe qui va jouer l'Angola demain soir, elle est déjà.
J'espère pour lui. Il va pas faire un tirage au sort avec les joueurs. Non. Il va dire, tiens, on va mettre. Non, elle n'est pas là, l'histoire. L'histoire, elle est qu'il faut accrocher, comme dirait mon ami Nyang, là. Il faut accrocher le premier match. Ici, en Afrique, je connais l'importance du premier match.
D'accord.
Il est énorme. Énorme. En termes, sur le plan psychologique. Oui. Un Africain, quand il perd le premier match, c'est.
En fait, tu te projettes.
Oui, mais c'est surtout c'est que nous, dans les concepts qu'on est, je ne sais pas, il faudrait amener un grand spécialiste du cerveau pour qu'il nous explique comment se fait-il qu'on est faible sur le plan mental et qu'on est plein de joie, plein d'envie. Dès qu'on a un mauvais truc qui se passe, tout suit derrière. C'est-à-dire que tu lâches tout. Il lâche tout. Et les Africains, c'est ça. Quand tu mènes au score au match. Quand tu perds un match, après c'est compliqué de les récupérer parce que les mecs ils croient plus, c'est fini. Quand ils croient plus, ils y croient plus. Et c'est vrai, hein, attention, c'est vrai. C'est pour ça que quand tu gagnes le premier match, t'es sur les bons rails, t'es parti. Il faut un huile derrière.
C'est ça.
Là, la pression s'en va, les joueurs sont relâchés, donc ça joue mieux de fait puisque le stress n'étant pas là. Et ben là, l'équipe commence à tourner. Et le but du jeu de l'équipe d'Algérie aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de nous de. On n'en est pas au premier tour parce qu'on veut se vérifier. Je pense que la logique voudrait être respectée qu'on sorte du premier tour. Ça va être sur les huitièmes et quarts où tu vas voir là.
Du lourd
et des équipes là. Mais il y a une chose quand même que j'ai vu hein, quand même hier, c'est la chaleur, man.
Ouais.
J'ai entendu le taux d'humidité, la chaleur. Les joueurs, comment ils ont explosé sur le terrain hier. T'as des mecs comme ça.
Et pourtant, on parlait du match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Ouais, hein, ouais. Deux équipes qui sont rompues à ce climat. Hein.
C'est exactement ça. Ouais. Et tu vas voir que ça va faire des dégâts terribles. Terrible.
Mais coach, alors hier j'ai suivi à travers la télévision une émission consacrée à ce retour des conditions climatiques en Afrique dite subsaharienne et même je dirais tropicale puisque la Côte d'Ivoire elle est quasiment au niveau de l'équateur.
Ah hein. Oh, oui, je connais.
Voilà. Et il y a un journaliste ivoirien qui a très très bien répondu en disant que vous ne pouvez pas jouer une Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin en Côte d'Ivoire avec la saison des pluies. C'est inimaginable. Et donc, aujourd'hui, le fait d'être revenu à une CAN, je dirais, d'hiver, d'ailleurs, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, pourquoi? Mais si vous avez un peu de jugeote, je dis bien comme ça, un peu de jugeote, prenez la carte du globe. Hein, du monde, Nasser. Regarde la position de l'Afrique, c'est-à-dire le continent africain. Comment il est fait? Il a une longitude qui est phénoménale, de Alger jusqu'au Cap. C'est impressionnant. Et puis tu as une partie qui va, on va dire, de Dakar jusqu'à la pointe de la mer Rouge, qui est phénoménale. Et ensuite, tu as une deuxième ligne intermédiaire qui est celle de l'Équateur. Là où on trouve les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, tout. C'est pour ça que Jamel d'ailleurs a choisi le Togo, c'est pas par hasard. Donc, est-ce que toi, en plus, parce que toi, tu as joué notamment au Ghana, quand tu avais aussi le Bénin aussi, tu connais ces conditions.
Oui, Mohamed, quand tu es averti, tu sais où tu vas. Après, faut pas qu'on tombe dans l'exagération, je vais dire, mais. Parce qu'il y a une chose qui est incontournable, c'est que les conditions, on les connaît. Janvier, ça n'aurait jamais dû être revenu, puisque la FIFA a imposé, soi-disant à la CAF, qu'il fallait qu'on libère les joueurs, que les joueurs n'aient plus de Coupe d'Afrique en décembre, en janvier. C'est le cas du Covid qui a été repoussé, la Côte d'Ivoire, qui a fait qu'on a remis ça ici, en sachant que dans 14 mois, 16 mois, il y aura la prochaine Coupe d'Afrique
au Maroc.
2025, ouais. Il sera lui au mois de juin. Le jeu, il va être là. Après, tu. Ben voilà, c'est ça l'Afrique.
Aujourd'hui, parce que le Maroc, il n'accepte pas de jouer en hiver.
Hein. Ouais.
Le problème, c'est qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va se jouer au même moment.
Voilà, il y a des choses qui viennent s'intercaler. Il y a des choses que. Toi, tu deviens le. Tu es comme en rang.
T'es un objet.
En rang, et maintenant, tu es deuxième, maintenant, tu passes dernier, tu recommences. T'es pas intéressant pour nous. Parce que c'est toujours le diktat des grands clubs, avec les médias, avec les télévisions. Tant que l'Afrique ne sera pas un marché commercial, un vrai marché commercial, ils n'ont rien à faire de ta Coupe d'Afrique. Rien à faire. Même les télévisions qui se battent là, si ce n'est que Canal fait un effort énorme. Bon,
oui,
on comprend avec ce qui se passe avec l'Afrique là, où on les voit partout en train de nous expliquer l'inexplicable. Mais bon, tu regardes Coupe d'Afrique aujourd'hui. Par contre, il y a vraiment. Un truc que je ne suis pas d'accord, c'est les deals qui ont été faits entre les sélections et les clubs. Tu sais qu'aujourd'hui, les sélections gardent les joueurs jusqu'à la dernière seconde.
C'est ça, ouais.
C'est honteux.
Ouais.
C'est-à-dire que les mecs ne se préparent pas avec leur équipe, ils ne sont pas là. Ils arrivent comme des je ne sais pas quoi.
Comme des mercenaires.
Ouais, ouais. Comme des petits anges.
Ouais, ouais.
Ils arrivent comme si c'était les sauveurs qui venaient pour sauver leur équipe et qui jouent le samedi, ils reprennent l'avion dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Alors qu'ils ne peuvent pas le faire en Europe ?
Bah, bien sûr. Aller à la préparation avant,
oui.
En Europe. Championnat d'Europe, dit à Didier Deschamps, lui, on va lui débarquer un mec 24 heures avant, tu vois, s'il accepte.
Jamais.
Eh ben voilà, mais on est là, on en est encore là. Les mecs acceptent, il y a des deals qui se font. Il y a Jamel qui disait, moi je m'arrange, je fais en sorte qu'il n'y a pas de soucis. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Mmh. Mais ton droit, il est là, il le dit à un moment, ton droit FIFA est là, ta date FIFA commence là, tu prends ton joueur, il n'y a même pas demandé son avis au joueur ou pas. Il vient se préparer avec son équipe. Et de là, tu te retrouves. Des complications après où on fait croire, c'est toujours l'histoire des fameux avions qu'on envoie spécialement pour le ramener,
oui.
Comme si le mec c'était un colis, mais oui ici des trucs de fou, bon là tu regardes des choses comme ça, tu te dis allez gars, faut rester tranquille.
Mais Nasser, avouons quand même,
ouais.
Que contrairement à avant où dans les équipes africaines tu avais de très grandes stars à qui on envoyait des jets privés,
ouais.
Je pense à Samuel Eto'o, je pense à Didier Drogba, etc. Aujourd'hui dans le football africain on a des joueurs standards, il n'y a plus de superstars, excuse-moi,
ouais,
bon, mais mis à part peut-être Mohamed Salah qui se dégage, mais au niveau africain j'en vois pas d'autres. J'ai du mal aujourd'hui à prendre la liste sur les 24 nations, à prendre des superstars qui quittent la sélection et repartent comme ça en jet privé. J'en vois pas. Avant, il y avait quand même une génération un peu plus étoffée, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le football est devenu standard.
Mmh.
C'est toujours la même chose.
Ouais.
Et donc, on voit toujours pareil, l'histoire des blocs, etc. Et forcément, tu retrouves la même chose aujourd'hui sur la CAN africaine. D'ailleurs, tout à l'heure, là, après la pause, on va parler aujourd'hui entre les conditions climatiques et le nombre de, par exemple, de joueurs africains qui sont partis de l'Europe vers l'Afrique. Et on s'aperçoit que, bien sûr, le pays le plus pénalisé, ça reste là.
France.
Merci.
Oui. Tu regardes les colons, les colonies, où ils sont, tu as vite comprendre.
Ouais.
Oui, mais bon, tu là, on est dans des choses qu'on va rabâcher, mais où tout le monde est au courant aujourd'hui.
Mais ils le savent, la CR.
Mais le problème, bien sûr, mais tout le monde est au courant, si ce n'est qu'aujourd'hui, on veut donner une importance qui me semble légitime, parce que le championnat d'Afrique, on a besoin de savoir qui est quoi. Maintenant, il faut bien intégrer que, voilà, il y a des droits pour tout le monde, il y a des devoirs. Hein. Et quand tu as des droits, comme la FIFA te le donne, des dates FIFA, Il faut que les sélectionneurs les respectent, ils fassent en sorte que il n'y a pas de deal avec les clubs en disant voilà, le joueur est bien la dernière minute, hier il y en a je sais pas combien qui sont partis pour rejoindre leur équipe, mais c'est un truc de fou. C'est une compétition internationale, c'est pas n'importe quoi.
Alors encore une fois, la CR, passe-moi l'expression, manque de respect à l'Afrique.
Oui, complètement, comme d'habitude.
Oui.
On dirait comme d'habitude.
Oui, c'est ça, t'as trouvé le mot comme d'habitude.
Oui, ouais. Ça change rien. Bon, on le verra dans le prochain sujet. C'est toujours la même chose. C'est toujours cette arrogance qu'on a encore avec les gens. Et que d'un côté, ben oui, c'est possible. Et de l'autre côté, excusez-nous, on peut pas. Ben oui, monsieur, les sélectionneurs, ils sont là pour ça. Ils sont là pour faire appliquer les règlements FIFA. Et comme ils le font pas, ils donnent des passe-droits à des joueurs. Ou des joueurs demandent des passe-droits. Ouais. Pour pas qu'ils soient en porte-à-faux avec leur club. Ah, c'est bon, les gars.
Ça peut aussi créer même des tensions au sein du groupe, hein, Nasser.
Ah oui, ça crée tout. Mais bon, après, t'as pas entendu les gens autant pleurer l'absence des joueurs africains? Jamais je l'ai vu comme cette année-là. T'as vu? Ils disent que ça. Ils parlent que de ça. Mais après, quand tu prends ton joueur et t'as les compétitions qui sont là, tu sais que là, il va manquer, là. Il y a un an que tu sais. Pourquoi tu le fais signer, alors? Pourquoi tu le fais signer si tu sais qu'il part en Coupe d'Afrique?
Et il signe encore, et ça continue à signer encore des joueurs africains qui n'ont pas été retenus par les sélectionneurs parce que.
C'est pas cher.
Ouais, c'est ça.
C'est pas cher.
Très bien, coach. On va se retrouver dans un instant parce que, quoi et moi, vous voyez, la discussion, nous, autour de la CAN, c'est bien plus que la CAN, c'est autour de la CAN.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Retour sur le plateau de Foot de sport. On a commencé à faire cette introduction d'émission. Alors, coach, on va rentrer dans le vif du sujet africain. Pas en termes de résultats, mais en termes de représentativité. Aujourd'hui, force est de constater que l'Afrique a envoyé, enfin, l'Europe ou la France, plutôt la France, a envoyé l'équivalent de 70 joueurs à la prochaine CAN. Sans oublier qu'il y a beaucoup d'Africains dans les équipes françaises qui n'ont pas leur place dans les sélections et qui restent avec leur club. Sinon, qu'est-ce qui resterait en Ligue 1?
Bah oui. Bah, si tu montres réellement les réelles conditions de travail qu'il y a aujourd'hui le football français, c'est que voilà, il y a beaucoup de joueurs africains. Et surtout, je ne sais pas du tout d'où leur culture de formation, je ne sais même pas d'où ils viennent.
C'est ça qui est bizarre, justement. J'ai quand même un suivi Nasser.
Oui, mais tu as un centre de formation qui est Metz en Afrique. T'as plein de clubs qui ont mis ça en place et qui aujourd'hui récupèrent des joueurs pas chers. Parce qu'il faut toujours parler d'argent, puisqu'on parle d'argent. Et ces gens-là, ils apparaissent. Et même quand ils marchent un petit peu, on va choisir d'autres. En Angleterre, c'est comme la Ligue 1 qui est le plus important, la Ligue 1. Et tu as ça. Et donc aujourd'hui, comme tu as très peu de joueurs, je mets des guillemets, blancs, de moins en moins, on le voit depuis moins d'une quinzaine d'années, et aujourd'hui c'est de plus en plus flagrant, tu fais avec. Et le problème, c'est comme par hasard ça tombe là au mois de janvier, on va en parler. Mais comme ils n'en parlent pas, ils parlent à moitié. Des équipes qui sont limitées par ce nombre de recrutements ou du fait que ces Africains-là soient pas là et que eux n'ont que ça, ils se retrouvent. Je pense à des clubs comme Clermont, Lorient, puis plein de clubs comme.
Et Marseille! Marseille, c'est joueur. Parce que dedans, il faut inquiéter aussi les joueurs marocains comme Amel Harit et puis Azdel Nahi.
Mais je sais pas, parce qu'ils auraient trouvé le moyen d'arrêter cette Coupe d'Afrique qui n'avait pas lieu, ils l'auraient fait, sans souci. Là, je sais pas, comme par quel hasard, on va mettre des coups sur des guillemets, il y aura beaucoup de guillemets ce soir. Tu vas te retrouver avec des joueurs de deuxième catégorie, troisième, des petits jeunes qui vont jouer, qui vont utiliser, où on entend aujourd'hui dans les fameuses presses, des joueurs qui vont avoir leur chance, on va leur donner leur chance, mais c'est pas leur chance, parce qu'il n'y a pas de joueurs, c'est tout.
Oui.
Et financièrement, comme il ne veut pas acheter d'autres joueurs, on est dans ce conflit-là, aujourd'hui, il y a une Coupe d'Afrique, et on va essayer de voir un petit peu plus ce que le football africain apporte. Hein.
Je te dis ça, Nasser, parce que quand tu parles d'argent, je vois aujourd'hui, par exemple, moi qui suis l'actualité du football français à l'échelon inférieur, qu'il y a des clubs de national aujourd'hui qui qui sont sanctionnés par la DNCG avec une rétrogradation dès la saison prochaine en National 2, parce que financièrement ils n'ont pas assez d'argent, et donc on va chercher toujours des joueurs moins chers. Où est-ce qu'on va les trouver? Voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin.
Oui, bah, moi quand j'étais en National, déjà moi j'avais, je me rappelle du club de Valence, on les a joués au match amical.
Oui.
On va pas dire qu'il y a des joueurs qui étaient là, mais bon, le salaire moyen c'était le SMIG. Les mecs ils jouaient en Ligue 2.
D'accord, en Ligue 2.
En Ligue 2.
Et il touchait le SMIC. Le SMIC d'un salarié ordinaire, quoi.
Voilà, tout à fait, c'était à peu près.
1200,
ouais. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Même pas 1200.
À l'époque, oui, ouais.
Voilà. Et hébergé dans des conditions. Mais c'est ça aussi, quand tu veux glorifier ta ville, quand tu veux apporter une aura, une euphorie dans ta ville, tu fais croire que t'es une ville sportive, t'as des conditions, t'as un beau stade et tout. Donc on va prendre les joueurs, et ben voilà, ils vont se réunir, par le business de ce que tu peux entendre. On les fait passer à travers les grilles de la DNCG, pour X raisons, toujours pareil. Et à la fin, ben, quand la DNCG a envie de te taper, elle dit tiens, on va vous rattraper, venez là. Ah, mais vous avez un déficit. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 10 ans, 15 ans. Qui a ce déficit, le plus gros déficit que j'ai pu voir, moi, c'est Besançon. Déjà, quand nous, on les jouait, il y avait 770 000 euros de déficit. En national, c'était énorme.
Ah oui, c'est une fortune.
Mais on les a couverts pendant 2 ans. Et à un moment, ils ont lâché. Ah oui. Et là, Besançon est en R2, R3, R1, je sais plus. C'est un truc de fou, hein.
Ouais. Et c'est pour ça qu'ils veulent resserrer l'élite dans le football français, peut-être.
Ouais, rien du tout. Ailleurs, ils ont l'équipe. Ils ont l'équipe de France pendant 20 ans. Ailleurs, ils ont les joueurs. Ils ont les joueurs. Ailleurs, ils ont 20 ans, 21 ans, 23 ans. Il y a un touchable. L'équipe de France, c'est bon. Non, ils vont retracer l'élite parce que il y a les gens de province qui crient au scandale parce qu'il n'y a plus d'équipe parisienne qui viennent.
C'est ça.
Ils aiment bien, c'est attractif pour eux quand l'équipe parisienne vient. Voilà. Oui. Et en plus, ils rachètent les joueurs après l'année d'après. Bon, ouais. Et aujourd'hui, ils rétrécissent, un jour ils rétrécissent, un jour ils élargissent, un jour. Mais c'est du n'importe quoi, mais vraiment.
Oui, parce que, pourquoi je dis ça, la serre, quand j'ai regardé là sur la composition des joueurs africains qui sont partis à la CAN, en dehors de la France, hein, je parle de l'Angleterre, de l'Allemagne, un petit peu de Belgique, d'Espagne. Eh ben, tu peux les compter carrément sur le doigt d'une main ou un maximum sur le doigt des deux mains. Ça, je parle notamment l'Angleterre, je crois que c'est une petite dizaine d'entre eux comme ça. Donc c'est pas beaucoup.
Ouais.
La France, c'est faramineux. On parle de 70.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui.
Marseille, 7.
Ah oui.
Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà repris. La Ligue 1 a repris la serre.
Oui.
Mais à l'époque, il y avait la fameuse trêve, à cette époque-là, on ne reprenait pas le championnat de France, on le reprenait à peu près vers fin janvier. Et comme ils ont élargi les compétitions européennes, aujourd'hui, les compétitions européennes, tu les joues en février, tu ne les joues plus en mars.
Mm-hmm.
Donc déjà, ça veut dire que si tu n'es pas prêt en janvier, tu arrives en février, tu es mort pour l'Europe. Eh bien, à la fin, l'Afrique ne veut pas. C'est comme ça.
Ils n'ont pas le mot à dire en Afrique, ils n'ont rien à dire, vous n'avez pas compris, c'est l'histoire des rapports de force. C'est qui parle? C'est la FIFA, la numéro 1.
Oui.
C'est elle qui a tout. Après, tu as l'UEFA, après, tu as les clubs, après, tu as les joueurs dits européens, après, tu as les joueurs dits africains, tu vois, des guillemets, qui disent leur mot et encore. On n'en dit même pas, il n'y a même pas de syndicat, il n'y a rien qui les représente, ces gens-là. Mm-hmm. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils ont la compétition, derrière leur discours, n'oublie pas que la compétition, ça génère de l'argent, ça génère du business, ça génère les médias, ça génère les publicitaires, ils en veulent des matchs, ils en veulent des stades remplis, tout le temps, les rentrées de guichets, mais c'est énorme. Et eux, ils viennent après, dans les négociations qu'ils ont avec leurs sponsors, ils viennent négocier ça. Regardez, on a 70 matchs, on a ça, c'est énorme. Regarde, ce soir, il y a Real Madrid-Barcelone, je l'avais même pas écouté, j'ai entendu parler de cette super coupe.
Oui.
En plus, avec prolongation. Tu racontes l'Arabie Saoudite? Ils auront imposé la prolongation, c'est-à-dire que normalement, ils auraient dû faire les pénalités. Oui. Non! On veut les prolongations, du spectacle encore. Et les mecs, ils sont partis là-bas.
Oui.
Ils jouent en Arabie Saoudite.
Ouais. Incroyable. Hein. Non, en fait, là, les Espagnols l'ont fait pour l'argent. Il n'y a pas autre chose. Parce que fais la Super Coupe du Roi, tu fais des demi-finales et tu fais une finale. La Super Coupe du Roi, généralement, c'est le vainqueur de la Coupe et du championnat.
Bien sûr.
Pourquoi là, on prend 4 équipes pour faire la demi-finale et finale? Ah, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Match à Riyad, bien sûr, en Arabie Saoudite.
Ce n'est que l'argent, moi. Je ne sais pas comment on va le dire, mais on va le redire.
Il n'y a pas de chose.
Il y a des gens qui parlent football, terrain, comme on essaie de parler. Il y a d'autres qui parlent argent. Et ceux qui parlent argent sont plus nombreux que toi. Il est là, le business, c'est tout. Le reste, il faut faire jouer, il faut les mettre. Dès qu'ils sont sur le terrain, ils s'en foutent. Il y a les caisses, c'est rempli. Allez, on donne l'échec. Real Madrid vient, Barça vient. Ouais. Aujourd'hui, ils ont fait le match, ils ont rangé le match Real-Barça. Ils vont leur faire un spectacle. Et après, ben voilà, ils vont dire, oh, vous avez vu Barça. Mais il n'est pas là. Aujourd'hui, on est dans l'argent, l'argent, l'argent. Mais que ça. Et ça, ça défraie la chronique.
Oui, mais malheureusement, cet argent-là, on le retrouve toujours au même niveau. Surtout, alors pourquoi je te parle de Saint-Nazaire ? C'est vrai que des fois, ça m'arrive comme ça d'enchaîner les sujets. Mais cette histoire de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite vient aussi à la suite de cette déclaration du Conseil de l'Europe qui a décidé de casser le monopole de l'UEFA sur les compétitions. Et c'est l'effet d'une véritable bombe à retardement pour cette fameuse Ligue des champions des riches. Pour l'instant, les Anglais ne sont pas favorables parce que les Anglais ne veulent pas qu'on touche à leur business de la Première Ligue qui génère un argent fou et qu'ils ne veulent pas engager des équipes dans cette Super Ligue. C'est donc c'est plutôt chez les Espagnols, un petit peu les Allemands, peut-être aussi quelques clubs italiens. Ça fera encore une autre compétition qui va venir. Il y aura une guerre entre cette Super League et l'UEFA. Sans oublier, bien sûr, que la FIFA leur a mis une épée de Damoclès avec cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Vous savez, championnat du monde des clubs à 24, je crois, ou à 32. Donc, Nasser, quand tu prends la globalité, excuse-moi, mais on finira par quelques clubs qui vont subsister.
Oui, non mais faut pas prendre.
Mais tu peux pas avoir 50 joueurs, sinon les mecs qui vont crever, excuse-moi du terme, de dire comme ça.
L'histoire n'est pas là. L'histoire, elle est qu'on veut, on veut et on veut que du top niveau. Quand tu as compris ça, c'est bon. Qui crée l'audimat aujourd'hui ? C'est PSG, c'est tout.
Oui.
T'as le PSG, t'as Revel PSG dimanche soir à 20h30. Oui, un club de R1.
J'ai jamais vu
R1,
ça.
Oui.
Oui.
Non, parce que
c'est Paris.
Parce que c'est Paris, parce que l'audimat arrive. Et le problème s'arrête là. Demain, quand tu parles de cette super coupe, eux, ils veulent du Barça, du Real, du PSG, Bayern. Le reste, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent leurs 20 clubs aller plus gros. Ils veulent se réunir ensemble, faire des allers-retours, faire trois. Ben comme tu vois la Super Coupe là. Et là, ça va générer de l'audience, ça va générer de l'argent. Et le reste, ils n'en ont rien à foutre de Lorient, d'Auxerre, de Dijon. Ils n'en ont rien mais vraiment à calculer. Là, ils les aident parce qu'ils ont redonné un championnat. Mais ils n'en veulent plus de tout ça. Ils veulent arriver direct. On veut directement, voilà, comme la NBA, on va fermer ça. Il n'y a plus personne. Si tu rentres, il faut une carte d'entrée. Tu ne l'as pas. C'est mort, et on fait notre championnat entre nous tout le temps. Et toi, tu regarderas tous les matchs. Ah, aujourd'hui, c'est Bayern Réa. Ah, ça va t'aguicher. Ah, c'est bon, ouais. Mais c'est de la plaisanterie, ça, après. Et l'argent va tomber de plus en plus, parce que les données vont être énormes. Après, tu peux mettre la FIFA, l'UEFA, ce que tu veux. C'est l'identité, ouais, on va dire, qui va récupérer ce championnat-là, qui va émerger de tout, parce que l'argent va aller chez eux. Ben, c'est eux, tout le monde va mettre l'argent chez eux. Tu vas enlever toi le Real Madrid, Bayern de Munich, tu vas te faire des quoi ce soir. Dis-moi que tu te feras rien. T'es habitué. Hein.
Ouais. Après, c'est vrai que.
Tu vas être habitué.
Ouais, c'est pour ça que quelque part, Nasser. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que l'argent, mais ça pose un vrai problème d'éthique.
Des conneries, ça, Mohan. Ah, c'est des conneries. Ah, l'éthique et tout, oui. Le fair play, le savoir-faire, oui. Ça c'est il y a 100 ans derrière. D'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'on te voit avec le discours. Quand ils sont bloqués, on va sortir les. Mais il n'y en a pas. Là aujourd'hui, là, il y a fini. Va voir tes factures. Va voir ta facture, c'est de l'éthique.
Bah, je sais.
C'est ça. Va voir tes factures. Oui. Tu vois, c'est de l'éthique. C'est fini, ça. On est dans le vif du sujet, là. On tape. Allez. Ah. Il y a l'argent, il est là. Il faut aller le prendre. Il y a ça, il faut le prendre.
Et justement, puisque là tu as parlé aujourd'hui, c'est l'équipe hors norme qui fait un championnat à part, qui génère donc une présence exceptionnelle du public, même comme tu dis, un club de R1 qui joue en prime time parce que tu as parlé derrière. Mais justement, juste après la pause, on va revenir à la serre, notamment sur cette affaire de stade. Les Qataris n'en reviennent pas. Ils sont complètement abasourdis par les déclarations de la mairie de Paris, notamment par le biais de David Béliard. Et là, ils sont en train de préparer un plan B parce que les Qataris veulent être propriétaires de leur stade. Si on leur donne, s'ils ne peuvent pas être propriétaires au parc, eh bien, ils iront ailleurs.
Foot de sport revient dans un instant sur sur Beurre FM. Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Pardon coach, tu vois bien que l'émission passe très très vite. Ouais. Le moins que l'on puisse dire, c'est que on a entamé des sujets que nous on aime parce que on est dans le concret. Et le concret, c'est cette histoire du Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable. Comme beaucoup, hein, on a tous écouté l'intervention de Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, face donc à Jérôme Rotel, hein, faut le dire. Et pourquoi il est intervenu? C'est parce que le Qatar voit grand pour Paris. Et le Qatar a bien sûr fait entrer un actionnaire américain dans son capital. Et le but, c'est de faire comme les grands clubs du monde, c'est-à-dire être propriétaire de son stade de football. Il se trouve que Paris est locataire du Parc des Princes, puisque le Parc des Princes appartient à la ville de Paris. Et par l'entremise de David Belliard, peut-être que aussi, est-ce une phrase malencontreuse ou est-ce que c'était dit comme ça? En gros, tout sauf le Qatar. Et en sortant cette phrase-là, tout sauf le Qatar, Nasser Al-Khelaifi dit, ça veut dire quoi? La phrase, parce qu'on est arabe. Donc, est-ce qu'il a le droit de le dire? Enfin, il s'est posé la question, est-ce qu'au pays des droits de l'homme, on a le droit de dire parce que les Qataris sont arabes et on n'a pas le droit de leur vendre? Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, quoi.
Ah, ça, c'est un vrai sujet.
Eh oui, mais non, c'est... Oui. Ouais.
Non, parce que j'ai vu sur une radio concurrente, là, radio, le discours de ce monsieur... comment il s'appelle?
Nasser Al-Khelaifi.
Non, pas Nasser Al-Khelaifi. Je parlais de...
De Paris. Ouais, David Belliard.
Voilà, notre ami David Belliard. J'ai écouté son discours, que toujours... Toujours il y a une marche arrière. On le dit comme ça, ça lance le buzz et après on dit ah non, mais moi j'avais pas envie de dire ça. Oui, bah il dit tout simplement on vend pas le patrimoine français, parce qu'il pense que le Parc des Princes est un patrimoine, ce qui est une bonne chose quelque part. Mais le problème c'est que les projets immobiliers sont terribles derrière. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient récupérer le Parc des Princes pour en faire des vrais appartements à des millions d'euros. Ça serait redevable.
Le très grand luxe, là.
Bien sûr, là, bien sûr. Et le problème, il est que, voilà, cette histoire-là, elle date depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, elle date des années 2000, à plus de 25 ans. On parlait déjà que le PSG allait sortir. Il était prévu, et c'est pour ça que j'ai horreur de cette médisance ou de ces discours où on oublie à chaque fois les historiques des choses. Quand les choses en arrivent là, c'est qu'il s'est passé des choses depuis longtemps. Le Stade de France est donné aux Émirats. Ils vont à la Plaine Saint-Denis. Ils négocient la Plaine Saint-Denis pour amener Beansport. Les Qataris mettent les moyens pour récupérer toute la banlieue. Ils mettent de l'argent. On n'oublie pas. Ils mettent de l'argent sur les projets. Tous les gens de banlieue sont aux anges. C'est vrai que tu mettais un projet, les Émiratis donnent de l'argent. Et du jour au lendemain, on dit non, on arrête tout. Comment on arrête tout? Non. Vous n'allez plus au Stade de France, vous restez au parc parce que les supporters du PSG qui sont du côté ouest de Paris ne peuvent pas aller au Stade de France. Ça veut dire que la nature du public du PSG va changer. Ce qui n'est pas faux.
Oui, on est d'accord. Jusqu'à la prise.
Mais le problème, c'est qu'on veut parler concrètement. On va dire que le Parc des Princes fait 48 000 spectateurs, le Stade de France fait 80 000 spectateurs. Là, on parle vraiment d'argent. Et on se rend compte que la rentabilité du Parc des Princes, on ne va pas dire nulle, mais elle est...
C'est pas celle espérée par les investisseurs.
Oui. Hein. Oui. Bah, aujourd'hui, ce qu'ils disent, ils nous veulent un outil qui s'appelle un stade et on veut en faire du merchandising à fond. On veut en faire un truc commercial qui va tourner plein pot. Et ils ont mis en place des projets qui attendent que l'aval de cette fameuse mairie de Paris qui hier embrassait le PSG tous les jours et qui demain dit non, on n'est pas d'accord. Alors maintenant, pour être plus clair, maintenant on fait les états des lieux, mais c'est quoi ce comportement du Qatar? Mais c'est quoi ces gens-là? Comment ils acceptent tout ça? Comment tu acceptes ça? T'es un des plus grands clubs européens, soi-disant, tu as l'argent qu'il faut et tu te retrouves devant des mecs politiques qui t'envoient des pics dans ta tête en disant non, parce que ce mec-là, il a envoyé celui-là.
Oui.
C'est pas lui qui parle comme ça. Il a envoyé par d'autres personnes qui les attendent de retour. Et quand ils ont vu la tournure que ça a pris là, maintenant on est en train de dire que notre maire de Paris, eh ben, on a mis Sarkozy au milieu pour faire l'intermédiaire entre les deux. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as l'argent pour acheter les joueurs les plus chers du monde. T'as un boulevard pour construire quelque chose qui peut être assez exceptionnel dans le football français. Et de l'autre, on dit non. Et on a un ami qui s'appelle, bon bref, on va pas le nommer, qui lui démontre que le Qatar n'apporte rien au football français. Mais je lui dis, tu t'imagines? C'est-à-dire que si t'as pas le PSG là, mais t'as rien là. Il n'y a plus rien.
Oui.
Il n'y a plus rien là.
Alors, non seulement, ça veut dire qu'à ce moment-là, Bein partira.
Ah bah,
l'argent que verse Bein. Et toutes les plateformes aussi.
Et les impôts qu'ils payent.
Oui.
Le PSG, les joueurs qui payent, le salaire qu'ils payent. Il n'y a pas les retours d'impôts là. Mais c'est un truc de fou. Donc on va redevenir, j'allais dire quelque chose. Ça va avec la suite. Ça va avec tout ce qu'on voit là. Ça va avec la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, non, Paris Saint-Germain, quand même, vous rendez compte. Hein. Mais moi, j'allais vous dire, mais allez prendre le Stade de France. Prenez-le. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut là. Et qu'est-ce que vous allez chercher? Ah, mais on est un peu loin, parce qu'ils ont fait un truc à Poissy.
Oui.
Ils pensent qu'ils vont aller nous faire un stade à côté de Poissy. Qu'est-ce qui... Ah, c'est chez toi, là-bas.
Oui, pas chez moi, parce que Poissy...
Si, c'est pas loin, c'est pas loin. À 5 km près.
Oui, on est à 100 km, c'est
voilà,
ça.
Voilà, 100 km sur l'autoroute A13, c'est billard, ça.
En plus, bientôt, il n'y aura plus de barrière de péage. Donc,
ah bon?
C'est-à-dire que tu arrives, si tu as ton badge...
Donc comme les bus.
Ouais.
J'ai vu que ça, moi. Et là, tu te poses des questions. Et notre ami Khalafi, Nasser, qui dit parce qu'on est arabe. C'est sur la. Mais ça, il y a 40 ans qu'on le disait.
Oui.
C'est comme ça.
Voilà, toujours...
Même pas, je suis arabe. Tu sais, oui. On est passé à autre chose maintenant. S'il y a une autre forme de racisme, avec d'autres mots, avec un vocabulaire bien tendancieux, bien huilé, qui va te poser la question est-ce que tu en es ou pas. Et ça, c'est choquant d'entendre des choses comme ça. Et de la part de Nasser Khalafi, de dire comment tu utilises ça. Mais nous, monsieur, on a 40 ans en avance sur tes propos aujourd'hui. Hein, parce que ces mots-là, on les dit plus longtemps, nous. Hein. On sait qu'on combat, faut combattre pour que tu puisses arriver à tes fins. Donc maintenant, le PSG, faut combattre, il faut arrêter de parler comme des pipelettes, il faut agir, messieurs. Vous avez des conseils, plein de conseils, faut les bouger pour trouver une vraie solution pour le PSG, pour le club et pour les supporters. Et là, j'ai l'impression qu'on a l'impression de se balader là. Tout le monde balade tout le monde là.
Parce que ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas, j'ai du mal à concevoir que dans la durée, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont rester les bras croisés avec le projet qu'ils ont de développement. Ils partiront du parc.
Oui, pour aller où?
Comme tu dis, ils sont prêts à investir pour construire un nouveau stade à eux.
Mais si tu mets un stade dans le sud-ouest, là-bas, l'ouest, là-bas chez toi, là, côté de Poissy.
Non, mais là-bas, on parle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Oui, c'est pas loin de chez toi, là-bas.
Oui.
Et ils peuvent, mais bon.
Je pense que non, mais là, c'est.
Paris, c'est Paris. Hein.
Non,
c'est
mais, non. Oui, mais il y aura une facilité. Alors, pourquoi? Pourquoi à ce moment-là on a bloqué le Stade de France, qui est vraiment au cœur de. Attends, Saint-Denis, c'est à la porte de la chapelle, le Stade de France, faut arrêter quoi.
Normalement, ça va lieu de ça tout de suite, mais bon, après ça va changer. Il y a l'identité, il y a l'équipe de France, l'équipe de France de rugby. Ils ont accaparé le club, ils ont accaparé le stade en disant ça. Mais t'as vu, c'est le consortium que j'ai vu de ma vie qui était fermé pendant plus de 20 ans, un stade de 80 000 places fermé. Il n'y a pas une équipe qui joue dedans. Mais ça n'existe pas, ça. Ça existe aux Émirats.
Oui.
Là-bas.
Oui.
Ils en ont plein, là. Surtout actuellement, avec les histoires. Tu sais qu'ils n'ont pas démonté, ils n'ont pas redonné encore.
Ah, d'accord.
Ah ouais.
Ils sont restés comme ça.
Ils sont comme ça, actuellement. Ils ont peur qu'ils pourrissent. Et voilà. Et après, c'est le cacophonie qu'on entend dans tout ce qui se passe. Tel PSG, tel président du Paris Saint-Germain. Alors, pour comparer, t'as le Real Madrid qui décide de refaire son stade. Un an, ils ont refait un stade de 80 places ultra moderne.
Oh, j'ai vu ça.
T'as vu?
Oh, j'ai vu le bijou.
T'as Barça qui décide de faire son truc tout de suite, tac, ils les mettent sur un terrain annexe, là, parce qu'ils jouent sur un terrain annexe. Ils jouent, et là, sont en train de. On parle du New Camp, hein, on parle pas.
Oui.
On parle là. Et t'as le PSG qui veut un stade, y a rien. Et t'as les petits politiques qui arrivent, ils ont besoin d'exister. Ils prennent le micro, ils disent « Ah oui, t'as vu, le patrimoine français, de quoi tu parles, patrimoine ? T'es en train de vendre tes églises, tu vends tes monuments, tu vends tout. Tout le monde est là et en train de regarder,
mais quand,
y a pas d'argent. »
Quand je vois l'ouverture chez les Anglais,
voilà.
Au cœur de Londres,
tout à fait.
Le stade d'Arsenal, avant, rappelle-toi, c'était le fameux Highbury.
Ah ouais.
Maintenant, il s'appelle Emirates Stadium.
Tout à fait.
Et donc, le stade des Émirats.
Ouais.
Parce qu'ils ont apporté l'argent. Et puis, chez les Anglais, on n'a pas cette politique de ferme. Tu vois, si à Manchester, l'Etihad Stadium. Etihad qui veut dire union. Quand même. Des mots arabes. Et on ne dit rien. Et au contraire, ils investissent beaucoup. Et si les Qataris partent du Paris Saint-Germain, qui va reprendre et dans quelles conditions? C'est pas possible. Aujourd'hui, avec le plan business qu'ils ont développé, moi j'ai du mal à voir un autre plan que soit vous nous le cédez, soit on va construire ailleurs. Et ils sont capables de construire parce que c'est pas l'argent qui leur manque, laser. D'accord? Comme tu le dis, il tape avec son pied, il y a un baril qui sort.
Il n'y a pas qu'un baril. Hein. Mais ça va très loin. Non, mais ça va. Ce qui a sorti ce fameux monsieur là qui nous a fait une leçon de morale.
David Belliard, ouais.
Qui nous a pris pour des gamins. Oui, mais tu t'imagines les rapports de force qu'il y a là. Faut dire aux auditeurs que quand même le Qatar paye la dette française. La dette, il la paye. Sarkozy, qui est l'entre mi-temps, on va dire. Entre les Qataris et la France.
Ouais.
C'est lui. C'est lui qui a amené le PSG là.
Oui,
c'est
absolument.
Lui. Il a vendu le PSG à ces clans-là. Tu crois que le PSG allait se vendre comme ça tranquillement? Allait se donner comme ça? Jamais. Vu l'importance qu'il a pris. Il a donné. Des parenthèses, ils ont amené des moyens considérables. C'est combien le budget du PSG? 500, 600, 700 millions d'euros? Qui donne ça aujourd'hui? Personne. Tu parles d'un football, ta Ligue des Champions, ben le mercredi, tu vas éteindre ta télé. Le PSG, c'est fini. Tu vas te retrouver dans un football, Madin, Islande, ou Norvège, ou Belgique. C'est ça que. Ah ouais. Et tu as des gens qui ne pèsent pas. Tu as vu derrière leur fameux nationalisme, patriotisme qui existe aujourd'hui, ben les Anglais le démontrent qu'eux, il n'y a pas tout ça. Ils sont dans une ligne directrice où l'argent prime. C'est le plus fort. C'est le plus fort qui passe. Et donc aujourd'hui, on va voir c'est comment on va se comporter maintenant M. Khalafi, parce qu'il a dit c'est les Arabes et tout. Mais je trouve qu'il aurait pu dire autre chose.
Ouais.
Il n'a pas besoin d'aller sur ce terrain-là. On n'a pas besoin aussi de l'entendre. Moi, ce genre de propos,
oui.
Il aurait pu dire simplement parle du Paris Saint-Germain, du club que c'est. Et tu demandes voilà, on a pris un terrain, on va le prendre. Allez, c'est fini, on l'achète et on va gentiment construire notre stade. Et là, tu vas construire ton business. Mais je sens que dans le business, c'est Paris. Stade de France, oui, mais l'équipe de France et le rugby,
oui.
Ils vont pas accepter le deal. C'est toi le consortium. Ils vont pas accepter le deal.
C'est ça. Le problème, c'est l'histoire du mot consortium.
Ouais.
Très bien, coach. On va marquer une dernière pause dans cette première heure d'émission. On va se retrouver juste après aussi avec vos appels du côté des standards. Merci pour votre patience. Je vous prendrai un par un dans l'ordre, bien sûr, d'arriver. Restez à l'écoute. Food Sport revient pour la deuxième heure.
Food Sport revient dans un instant sur Beurre FM. 18h, 20h, Food Sport avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Et sur cette deuxième heure de Food Sport, eh bien, on va reprendre. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre patience du côté du standard. Eh bien, je vais vous prendre dans l'ordre un à un et puis on va discuter ensemble. On commence. Alors, en principe, c'est Mohand qui est avec moi.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur Beurre FM, Mohand.
Bonsoir à tous, bonsoir coach.
Bonsoir.
Bah d'abord je veux dire bonne année.
Oui, normal, oui.
Voilà.
Fin janvier.
Voilà, on peut le dire. Alors c'était juste par rapport au débat que vous avez là en ce moment avec, avec le Qatar et le Parc des Princes. Moi je trouve que Nasser Al-Khelaifi, il fait un peu de la communication et il essaye un peu de faire un peu du chantage parce que déjà moi je connais pas ce Sadjouan Oumer là, monsieur Béliard, donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, mais en tout cas apparemment ils auraient dit on vend pas au Qatar, et lui il a extrapolé pour dire donc Qatar donc arabe.
Oui, c'est ça, exactement. Lui, il a tout de suite fait le
oui,
lien.
Oui, mais lui, Qatar, c'est son jeu, c'est pour... il fait aussi de la communication, Nasser Al-Khelaifi.
Oui.
Moi, je trouve que le Parc des Princes, c'est un patrimoine, ça appartient pas seulement au Paris Saint-Germain, même à la France. Parce que quand même, le Parc des Princes, il y a tout un historique. L'équipe de France, l'équipe de rugby, enfin, toutes les équipes de France ont joué là depuis 1972 jusqu'à à 1997.
Oui.
Et en plus, ce que propose apparemment la mairie de Paris, c'est de, c'est une location à long terme.
Oui, mais imagine, voilà. Moi, je suis en train de voir aussi plus loin. Imaginons demain, le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes. Qui va occuper le stade? Parce que maintenant, l'équipe de France, que ce soit foot ou rugby, sont au Stade de France. On est d'accord?
Oui, mais je crois que c'est un bras de fer qu'il faut entre eux. C'est un bras de fer.
Oui.
Moi, je pense que la mairie de Paris s'est dit que le Paris Saint-Germain ne partira jamais du Parc des Princes parce que les alternatives, il y en a pas beaucoup parce que envoyer dans les Yvelines ou je sais pas où.
Je crois que
le Qatar, il a acheté Paris. Enfin, Paris, là, l'image de Paris, en plus.
La Tour Eiffel, comme on dit.
Voilà, c'est la Tour Eiffel. En plus, le Paris Saint-Germain, financièrement, je crois que c'est un des clubs les plus rentables. Enfin, au niveau business, s'il faisait la même chose au niveau sportif.
Ouais. au niveau business, c'est un club rentable, il n'y a pas de doute.
Ils font quelque chose, un tour de force vraiment énorme, mais au niveau, s'ils faisaient la moitié du nouveau sportif, je crois qu'ils. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que le Parc des Princes, c'est un patrimoine, il appartient pas seulement au Paris Saint-Germain, il appartient à toute la France. Toutes nos grandes émotions de l'équipe de France, on les a eues là-bas, l'époque Platini, même dans les années 90.
Oui.
Et en plus, il y a
aussi pour nous le souvenir de Mustapha Daleb.
Oui, tout ça. Et vendre ça à un pays, parce que c'est le Qatar, ça tombe que c'est le Qatar, mais ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose. On se plaint toujours que. Donc, moi, je pense que le Paris. Ils peuvent trouver un moyen terme, ça veut dire et une location à très long terme. À 99 ans, un truc comme ça.
Oui, mais le problème, encore une fois, c'est l'assiette foncière. Hein. Et je rappelle quand même que le terrain ne peut pas être vraiment agrandi à cause de cette restriction foncière et qu'aujourd'hui...
Par exemple, le Paris Saint-Germain, le Qatar achète. Est-ce qu'ils vont agrandir l'assiette foncière?
Non, mais justement, le problème, il est là, c'est que l'assiette, malheureusement, elle ne bougera pas. Et du coup, pour eux, c'est une perte d'argent. C'est pour ça que l'histoire du Stade de France...
Pourquoi l'acheter?
Non, je.
Pourquoi l'acheter s'il ne peut pas l'agrandir?
Non, c'est impossible. Parce que derrière le parc, tu as aussi, comment on appelle ça, le Roland Garros, ils sont à côté, ils sont mitoyens.
Ils ont les plans pour agrandir le parc. Ouais. Je crois que de 48 000, il le passerait à 65 000.
D'accord.
Mais ça, il n'y a pas de problème avec Paris, ça.
Voilà.
Y a pas de problème,
non, mais pour revenir à tes propos, il faut bien que tu comprennes aussi que la France vend tout. Elle a vendu ses grandes entreprises. Elle a vendu ses grandes entreprises. Maintenant qu'on parle de football et qu'on touche la fibre émotive et que ça touche notre ego, en disant oui, mais t'as vu, c'est un club, c'est un stade. Mais non, monsieur, aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, on est en 2024. Quand tu as la dimension du PSG, tu te dois d'avoir ton stade pour que tu puisses faire ce que tu veux. Exactement ce que tu veux.
Paris, ils disent faites ce que vous voulez, on vous le loue.
Oui, non, ils veulent acheter eux.
Parce
que s'il y a un business qui se met à l'intérieur de là, il y aura les impôts qui vont se poser, il y aura plein, une multitude de charges qui vont venir compléter l'allocation du stade de France, du Paris des Princes.
Les impôts, ils les auront tout le temps, hein, les impôts, que ça sera acheté ou pas, les
impôts. Non, c'est pas la même. On n'est pas dans le même.
Quand
tu es propriétaire de ton bien, tu fais, on va dire, un minimum ce que tu as envie de faire. Après que tu payes des baux parce que tu as une charge commerciale derrière, oui, il n'y a pas de problème.
Mais par exemple, regardez juste quelque chose. Par exemple, il l'achète là. Et tout l'urbanisme, tout ça, ils ne pourront pas le faire comme ils veulent, même s'ils l'achètent.
Tout est prévu. Le stade, les plans sont prévus. Le Parc des Princes va être modifié. Il va se passer un truc de malade. Sauf simplement, c'est que eux, le patrimoine, comme ils l'ont dit, notre ami, ils ne veulent pas qu'on vende le PSG, le parc. Simplement, c'est qu'on ne dit pas que les plus grandes entreprises françaises qui étaient le fleurons de l'industrie française ont été vendus.
Il faut comparer
ce qui est comparable.
Ouais. Regardez Roland Garros juste pour faire un tour. Vous avez vu tout ce qui s'est passé?
Oui, c'était lié aux associations de la nature. Oui, c'était lié aussi aux associations.
C'était mal Qatar, parce que pourtant pourtant, c'était pas le cas.
Non, mais eux, c'était lié aux associations de quartier qu'ils avaient autour. Et c'est lié aussi au plan vert du Danube, puisque non, mais c'est pas la même, là. On n'est pas dans le même monde, là. Là, on ne parle pas des mêmes choses.
Mais en tout cas, tu me dis, coach, tu me dis, parce qu'ils ont tout vendu, donc continuons. Bah non.
Bah si,
et on peut s'arrêter une fois, on n'est pas... C'est pas si quelqu'un s'est suicidé que...
Oui, mais on n'est pas dans le même comparatif, là. C'est pas ça l'histoire. Ces clubs-là ont besoin d'avoir leur outil de travail dans leurs mains. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la propriété de l'enceinte. Avec ça, ils feront ce qu'ils ont envie. Là, aujourd'hui, ils sont dépendants d'une ville, d'une commune qui leur impose des diktats, qui leur impose des choses. Chose qu'on ne maîtrise pas, on n'est pas là. Et c'est assez, ça doit être très technique. Le problème, c'est que le PSG, vu aujourd'hui la dimension qu'il prend, le Real Madrid a son stade. Manchester a son stade, oui. Arsenal a son stade. Tous les grands clubs, les grands businessmen ont besoin d'avoir ce stade-là. Ils ont besoin d'acquérir le stade pour la propriété.
C'est plus de la fierté qu'autre chose. Parce qu'encore une fois, s'ils ont une location à 90 d'avant, ils pourront faire ce qu'ils veulent.
Non, ils n'en veulent pas.
Ils l'ont acheté ou pas.
Non, ils n'en veulent pas. Parce que c'est toujours à eux.
Ils n'en veulent pas. Ils veulent de la fierté, c'est tout.
Alors, d'entendre le Real Madrid, de Barcelone, toi, c'est de la fierté. Ils mettent des millions là-dedans pour de la fierté. Non, faut pas rigoler, là. C'est pas de la fierté. À ce prix-là, c'est plus de la fierté, là.
On n'est pas d'accord, mais.
J'entends bien ton discours.
Chacun ses arguments, bien sûr.
J'entends bien son discours. Mais sache que c'est l'histoire de la mondialisation du capitalisme. C'est l'argent. Ils veulent leur outil de travail. C'est comme si toi, t'es milliardaire. Mais c'est comme si toi t'es milliardaire, t'es chez toi et que tu loues, et ben t'as envie d'acheter ta maison et on va te dire non. Et toi tu vas me dire non, ah ben c'est pas la même.
Dans deux projets, il y a toujours deux parties, il faut que les deux parties soient d'accord. Donc Paris a la force de dire non, ils disent non. Et voilà,
c'est clair.
Ils font avec.
Et ben suis la suite, tu verras la suite. La suite.
Merci Mohamed.
L'avenir nous dira, en tout cas, bonne soirée à vous.
Merci beaucoup. Ben oui, au revoir. Au revoir. Et c'est vrai, c'est, au-delà de la sphère de l'aspect de un peu business, il y a aussi l'aspect, comment je dirais ça, historique, parce que tu as aussi des gens. T'as aussi des gens qui sont là depuis longtemps, quoi.
Mais faut pas être simpliste dans l'histoire. Tu peux pas rester dans la simplicité en disant t'as vu, ils font comment on appelle ça le bail à 99 ans. Je me rappelle plus du terme exact en termes de justice. Et je dis simplement, le PSG veut avoir son outil, tu vois, son outil de travail. Il veut en faire ce qu'il veut. Et pas demander l'autorisation et de savoir si c'est la mairie de Paris qui va venir nettoyer ou qui va venir tondre le gazon ce jour-là. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ouais. Très bien, coach. Alors, juste avant de continuer avec nos auditeurs du côté du Standard, il y a deux jeunes footballeurs qui ont perdu la vie sur l'autoroute A71. C'est dans l'Allier. Ils étaient à Bourges-Moulon, c'est ça ? Je suis en train de voir ça. Donc, ce sont deux jeunes. Oui, merci pour l'info. Donc, vraiment, c'est terrible. On tient quand même à présenter nos sincères condoléances à toute la famille parce que c'est des jeunes qui sont partis comme ça. C'est dans ces circonstances, c'est un peu compliqué. Je voudrais également aussi présenter mes condoléances à un autre. C'est un entraîneur aussi. Azdine Megilati, c'est ça, Nasser ? Ouais, qui est décédé aussi. Donc, merci.
Mais là, on parle du fils de Nasser Guedjura. Hein.
Attends, mais.
Ah oui, oui.
Attends, mais Nasser, je. Parce que c'est pas indiqué. J'ai pas lu. Tu parles de. C'est un des enfants de Nasser Guedjura.
Ouais, ouais.
Notre ami Nasser.
Ouais.
Écoute, là, tu me. Je reste.
On m'a envoyé ça.
Ouais, je reste un peu.
Voilà.
Ouais, écoute, cher Nasser, j'ai pas les mots pour le dire, mais je le dis en direct, là, ici sur l'antenne de Beurre FM, à 19h11. Ben, au nom de toute l'équipe de Beurre FM, de foot de sport, Nasser qui se joue à moi aussi, pour te présenter nos plus sincères condoléances à toi, ton épouse, tes enfants et à ceux qui te sont le plus cher en cette douloureuse circonstance. Donc voilà, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. Également à Adeline qui se trouve aussi au pays, puisqu'il joue au Mouloudia, j'ai vu son maillot, donc au CRB, donc aussi à Adeline. On associe donc cette douleur, franchement. Ça nous, j'avoue que ça me perturbe un petit peu dans la continuité de cette émission, mais bon, sache que je sais que le message va te parvenir, cher Nasser, mais en tous les cas, on est de tout cœur avec toi. Merci, coach, de m'avoir donné cette information. Je retourne du côté de Standard qui est arrivé en premier. Il est là. On y va. Bonsoir. Allô.
Allô, Mohand.
Bonsoir, Malik. Comment va, Malik?
Bonsoir, Mohand. Bonsoir, Nasser.
Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, Nawad de côté, Boulhi et Sofia. Sofia ne voit plus, là. Et tout
ben, écoute, normalement, il était censé revenir aujourd'hui, mais il n'avait pas de voiture.
Elle n'a pas de voiture. Là, il va marcher à pied. Voilà. Et bonsoir à Nawad de l'autre côté.
Oui, bien sûr.
Bonne année à Mirve. On a à Mohand, PSG, c'est parti au Qatar. Quand tu dis pour la chapelle, c'est pas pour la chapelle d'avant, il y a l'ambiance et tout ça. C'est
fini. Attends, Malik, deux secondes. Ouais. Le garçon qui est décédé s'appelle Arsalan Guedjura. Voilà, c'est le fils de Nasser et le frère de Adlen. On
va tous passer par là, Mohand.
Ouais, mais c'est dans un accident de voiture, jeune.
Ouais, l'accident de voiture, il est jeune. Voilà, avec les joueurs, tu m'as dit, de Bourges, je connais Bourges. Ouais. أنا أحمر بكل شيء يربط لنا بركة مولانا
إن شاء الله.
بون دومان سي سي دومان أون فوا la suite de football.
Demain, la vérité, c'est ça, Malik. Hein.
C'est ça qu'on va voir, la vérité. Ouais. Hier, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée.
Et Bissau, oui.
Avec la force. Hein. Moi, je ne sais pas la Côte d'Ivoire s'ils vont aller loin. Voilà.
Oui, parce que les autres n'étaient pas mauvais, c'est juste que les buts étaient. J'ai regardé les actions de but, c'était des buts naïfs.
Ils ont bien joué, hein. Ils ont bien joué. Ouais. Ils n'ont pas un vrai buteur et tout ça.
Non.
Eh bien, ils font des passes et tout ça. Ils vont en Europe et tout ça. Mmh. Voilà. Moi, maintenant, c'est demain, on va voir avec l'Angola.
Oui, demain.
C'est la vérité, c'est demain.
Ouais.
Voilà. Parce que j'ai discuté avec les Algériens aujourd'hui.
Oui.
Porte de Saint-Ouen, Ville de Saint-Ouen. Alors, le gentil, à la boulangerie, j'ai discuté là, c'est demain, on va voir et tout ça. Voilà, ouais. C'est demain, on va voir. Voilà, c'est des tests, ils ont bien parti, mais c'est demain, ça va voir. Akirka de Kvaïd, Azkar de Van Farmer ou Al-Gaziz. Tu sais, Al-Gaziz. Al-Gaziz, voilà. Voilà. Bon. Normalement, Mohand, normalement, Paris Saint-Germain, Al-Khazmenis, Mendiz, ancien footballeur, comme Michel Platini, Mustafa Dahleb, ensuite, de suite à Salha Assad, il a joué à Assad d'après.
Ah, bien sûr, oui.
Mais ils vont faire un minimum leur note dans Paris Saint-Germain.
Ah, bah, ça, ils le méritent.
Leur histoire. Oui. Voilà. Mmh. C'est comme le frère de Sanjak, Yazid, il a passé par Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Il a joué.
Ah, oui.
À Merange, il est parti après à Créteil.
Mmh.
Voilà. Tembenabia. Voilà. Mmh. Surtout les anciens joueurs et tout ça. Leur histoire et tout ça. Voilà. Allez, bon continuation, Mohand.
Ok, merci Malik.
Allez, à bon.
Merci. Alors, vous restez du côté du Standard, puisqu'il y a de plus en plus d'appels. Je vous reprends dans un instant. Je vous le rappelle, cette info également. Je l'ai reçue aussi, Nasser, sur la disparition tragique du fils de Nasser Guedjura, Arsalan Guedjura, dans un accident de voiture sur l'autoroute A71. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
C'est parti pour la suite de Foot de Sport jusqu'à 20h. On repart du côté du Standard. Bonsoir, bienvenue. Allô.
Allô.
Oui, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, meilleurs vœux à tous.
Merci, alors, présente-toi s'il te plaît.
C'est Nordine. Nordine, taxi, ça fait longtemps que je n'avais pas appelé le standard.
D'accord, Nordine, ok, on t'écoute.
Ben déjà, j'apporte tout mon soutien à Jamel Belmadi pour cette Coupe d'Afrique avec l'équipe d'Algérie. Déjà, il y a tout mon soutien, déjà.
Normal.
Je suis content qu'il soit là. Et je soutiens aussi la Tunisie et le Maroc, parce que si les Marocains et les Tunisiens vont plus loin que l'Algérie, et ben la fédération algérienne n'aura pas le choix que de mettre les moyens en plus pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà.
Eh oui. Déjà. C'est vrai. Non, mais c'est bien ce que tu dis là, Nordine. On est d'accord.
Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il en pense, Nasser, de ce que je dis?
Très très bien. Très très bien. T'as compris la combinaison Merci qu'il fallait. T'as compris la combinaison qu'il fallait. Voilà, t'as tout compris.
Bah oui.
Pour que ça réussisse, il faut que les autres. Non, mais ce qui est malheureux, c'est que voilà, ce que tu dis, il faut que les gens à côté fonctionnent, font des choses, pour que toi tu fasses des choses. C'est ça qui est énervant. Et nous, les compétences, il y en a plein, pays, il y en a plein la France. Et on est toujours occulté, on est toujours pointé du doigt et on. Bref. Ce que tu as dit, c'est exactement ça, fils.
Tu l'as dit la semaine dernière, c'est très compliqué. La fédération algérienne, elle est très compliquée. Tu l'as dit la semaine dernière. Oui, et il n'y a pas de secret, s'ils vont plus loin, il n'y a pas de secret, faut les mettre dos au mur. Voilà.
T'as tout compris. C'est exactement
Ensuite, merci beaucoup. Maintenant, concernant le dossier du PSG, l'adjoint au maire qui est passé là, il est passé quand chez Roten? C'était lundi ou mercredi? Parce que je l'ai écouté aussi.
Ouais.
Et donc déjà, lundi ou mercredi. Donc déjà, le premier adjoint au maire de Hidalgo, déjà il est parti, il a claqué la porte. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, comme t'as très bien dit, on lui a dit de faire telle chose, il suit la politique de la mairie. Maintenant, l'intervention qu'il est passée sur RMC, c'était d'abord concernant la rénovation du toit du PSG. Et les Qataris, ils en ont marre de payer. Donc ils ont essayé de parler, et en même temps, Nasser fait sa communication, en même temps, il rajoute sur la table le fait de racheter le Parc des Princes.
C'est ça.
Et ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Parce que j'étais agent de sécurité.
Ouais, vas-y.
Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Nasser.
Non, continue dans ta lancée. Vas-y, continue, fils. Vas-y.
Ok. Donc, moi, j'étais agent de sécurité. J'étais chef d'équipe au PSG. Et j'ai vu les tribunes. J'étais au bord du terrain. Ouais. Et j'ai vu la tribune présidentielle. T'as le Grand Paris. T'as les personnalités politiques. T'as Tibéri. T'as Nasser. T'as Sarkozy. T'as le show business, t'as Hanouna, t'as le Grand Paris. Et ceux-là, ils ne veulent pas partir du PSG, du Parc des Princes, parce qu'ils sont à côté, c'est une habitude.
C'est exactement ça.
C'est pas possible. Oui. En même temps, et attends, c'est pas fini. Il y a une chose très importante, c'est que tout le monde dit, les Qataris, ils ont acheté le PSG, les Qataris ont acheté le PSG. Oui, d'accord. Les Qataris, ils ont racheté le fonds de commerce du PSG.
Tout à fait.
C'est tout.
Tout à fait.
Et après, de là, ils ont fait une entreprise, ils sont partis du camp des loges pour aller à Poissy, d'accord, c'est bien. Ils ont racheté un centre d'entraînement à combien? 400, 800 millions, combien ils ont mis sur la table? 400, 800 millions.
Ouais, c'est ça.
Mais faut pas oublier que tu es propriétaire du terrain, tu n'es pas propriétaire du sol. Donc si l'État français veut te dégager, il te dégage.
C'est clair.
Ça, on est d'accord. Non. Donc, c'est d'où le terme, quand tu dis propriétaire, il y a un terme juridique, c'est que la terre, le sol ne t'appartient pas. Ça, on est d'accord.
Bien sûr, mais ils ont juste racheté le fonds de commerce. Le PSG est à eux, mais à la base, c'est un fonds de commerce qui appartient aux autorités administratives, à l'État français. Donc, si demain, ils rachètent le Parc des Princes, c'est super. Mais si demain l'État français ils ont le marre des Qataris, tu fais comment pour les dégager? Bon courage.
Ouais, mais il n'y a pas ça. Non, mais ce que tu dis est très bonne, ton analyse, elle est très intéressante. Faut que tu saches quand même que ça se passe pas comme ça. Tu dis pas les gens, les Qataris, ils me plaisent pas, on les dégage. Non, c'est pas comme ça du tout. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui les Qataris veulent racheter une enceinte sportive qui est le Parc des Princes. Le but du jeu, c'est que l'État français, on le sait, mais aujourd'hui, on n'a pas encore ce fameux impôt qui va arriver dans quelques années sur le fameux l'État, il est propriétaire de tous les sols de France. Mais on n'en est pas là encore. Faut savoir que le PSG veut acheter le stade et en faire un outil commercial. Il est là le discours. Et les mecs qui ont parlé comme tu as entendu.
J'entends bien.
Oui, t'entends bien là. Les mecs que tu as vu là.
Mais dès la dès la négociation du contrat, ils ont pu leur faire comprendre. Ouais. Jamais on vous vendra le Parc des Princes. C'est pas possible.
Ouais, mais jamais ils auront fait ça. Ils les ont fait dormir.
Jamais.
Bah oui, ils les ont fait dormir aussi.
Mais lui fait de la communication.
Ouais.
Il fait de la communication. Anne Hidalgo, son bilan est catastrophique parce que j'emmène du grand monde. Le déficit de Paris, il est plus de 15 milliards. Elle écoute plus ses conseillers. Elle est sur notre planète. Et c'est pas fini. Parce que ces travaux, ils sont pas terminés. Elle a réussi à prolonger ses travaux jusqu'au 20 avril, le mois de mai, alors que normalement, la commission de contrôle du comité olympique va envoyer sa délégation officielle normalement à partir de fin janvier, début février.
Ah ouais, mais là, tu n'es pas prêt pour les JO, hein.
Je les vois les travaux. Je suis taxi, je les vois. Relinois, c'est terminé, mais boulevard Franklin Roosevelt, elle a laissé la pelleteuse, les travaux ils sont toujours là, ils ont pas bougé. Elle a pris une société pour le balisage et une société pour les travaux. Elle fait n'importe quoi, elle fait tout à l'envers. Et donc, concernant les Qataris, jamais ils arracheront le Parc des Princes, c'est pas possible, c'est trop politisé. Maintenant, la Première Ligue, là c'est autre chose. Là, la politique de l'Angleterre, c'est l'entreprise, on vous accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème, vous mettez les levées, vous mettez l'argent, vous êtes les bienvenus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'économie, avant tout.
C'est les retombées médiatiques, les retombées financières.
Mais c'est pas la même politique. La politique n'est pas les mêmes, mais Paris, jamais dans le Parc des Princes, c'est pas possible. Le grappin du 16e aller au Stade de France ou aller dans 77, mais jamais de la vie. Jamais de la vie.
On a bien compris, Nordine. On a vraiment bien compris.
Ce que dit Nordine, c'est un argument qui a été utilisé la première fois quand le PSG a voulu aller au Stade de France. Tout ce lobby-là s'est levé. Ils ont été voir la mairie de Paris, parce qu'il y avait vraiment un deal. Il y avait une vraie bagarre entre eux là-dessus. Et aujourd'hui, ils sont restés en pensant que sur la durée, que ça allait, il allait acquérir le bien. Mais ce que dit Nordine, oui, bien sûr. Mais bon, après, t'as vu, hein, l'argent n'a pas d'odeur. Et comme tout, si le PSG doit partir parce qu'il va passer de 48 000 à 80 000 places, je crois qu'ils vont pas se gêner. Hein, parce que 40 000 euros. 40 000 euros, mais
c'est pour ça. Il y en a pour 350 millions d'euros de travaux s'ils veulent augmenter leur masse, leur masse de spectateurs. Parce que déjà, ils étaient 35 000, ils sont passés à 45 000 parce que je me rappelle, il y avait une fosse. Ouais. La fosse, ils l'ont retirée, ça a rajouté 10 000 places. Mais de là, il y a 350 millions, il y a le toit à refaire qui est de 100 millions d'euros et les Qataris, ils en ont marre de payer.
C'est clair. Non, mais c'est clair. Voilà. De toute façon, pour arriver là. Ça va être Mbappé qui va
payer. Le bilan catastrophique du président Nasser.
Ouais, mais
oui, Mbappé il partira pas du PSG, c'est pas possible, je le vois, il restera au PSG, ça c'est sûr.
Parce qu'aujourd'hui tout le monde dit que si Mbappé quitte le PSG en fin de saison, c'est tout le plan business qui part en l'air parce que c'était un véritable investissement sur le garçon. Et au-delà, c'est même au niveau des des droits du foot français, en se disant que les diffuseurs.
Préparez-vous à être choqués. Ne pensez pas à argent. Mbappé, il va pas être là-dedans.
Monde.
Mbappé, il a 25 piges, il a besoin de construire un palmarès, il a pas de palmarès sur lui.
Ouais, c'est vrai.
Comprendre ça.
Oui, c'est vrai qu'à part la France, il n'a pas.
Surtout. Et le PSG, vu ce que je vois là aujourd'hui, on n'est pas prêt encore de voir arriver la grande équipe qui va nous faire gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est ça aujourd'hui, il rêve que de ça.
Non, mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que Mbappé, il peut aller au Real de Madrid, il a que sa Ligue des Champions. Mais lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans l'histoire.
Oui,
il ne pourra jamais dépasser le record de Benzema, 5 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. C'est pas possible, c'est impossible.
C'est clair.
Et en même temps, il ne faut pas oublier que lorsqu'il a fait un coup de Trafalgar à Pérez, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a mis dans le journal du 20h. Et tant qu'il n'aura pas rempli son contrat, gagné avec des champions et un ballon d'or avec le PSG, il est coincé avec Paris. C'est pas possible.
Il est coincé.
En même temps, il a un salaire. Ça c'est son problème. Il avait qu'à la mettre en veilleuse. C'est son problème. Maintenant, il y a une chose toute bête. Si Mbappé, il va au Real de Madrid, c'est Adidas qui reprend les rênes. On est bien d'accord.
Ça dépend. Est-ce que...
Il va pas jouer avec le maillot Nike au Real de Madrid. Il va jouer avec le maillot Adidas.
Ouais, ben, bah, c'est sûr que c'est des contrats individuels, ça, bien sûr, ouais, ça joue.
Bonne réflexion.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'il va essayer de chercher.
Tous les enfants.
Ouais. Il va essayer de chercher un club qui a et qui est planté que lui.
Non, il est passé dans le journal du 20h, c'est pas possible. Mmh. Il a signé perpète avec Paris. Il a, qui va lui donner 75 millions d'euros de salaire?
Jamais. Aucun, voilà. Aucun club
c'est
au monde.
Ouais.
Wow.
En non, même mais... temps, vous parlez des avantages des Qataris. Il ne faut pas oublier que les fourrières de Paris, c'est une société Qatari qui les a. C'est plus Rojan. Avant,
ah bon,
c'est Rojan qui avait les foires de Paris. Ah oui, maintenant, c'est une société Qatari.
Ah, magnifique.
Et faut pas oublier tous les avantages sociaux. Il y a des avantages même au niveau des charges que les Qataris ne payent pas.
C'est ça.
Donc il n'y a pas que le PSG qu'ils ont pris les Qataris. Il y a beaucoup d'avantages.
Ouais, mais c'est ce que tu dis. Non, donc, ce que tu dis, c'est très intéressant. Le problème, c'est que sur la place publique, on n'est pas au courant de tout ça. C'est-à-dire que les gens ne savent pas et ne savent pas ce qu'est le Qatar.
Ah, mais...
Personne ne veut en parler. Personne ne dit réellement les réalités de la puissance du Qatar qui est là pour aider la France. Et c'est le travail de Sarkozy qui mène depuis quelques temps. Aujourd'hui, tant qu'on est en train de parler du stade, est-ce qu'ils vont prendre le stade, pas le stade. Mais bon, moi, je trouve que leur communication, elle est merdique au PSG. On le voit parce que en train de nous parler de je sais plus quel endroit là-bas au fin fond du
son oui,
du
oui.
Ouais, tout
ouais, du côté de Carré-Sénard,
voilà,
du côté
de Carré-Sénard. Mais des trucs de fou, tu es dans un délire.
Je suis au courant.
Voilà, ben oui, mais, on est dans un
mais
délire.
Imagine le Parc des Princes à Carré-Sénard. On va avoir toutes les racailles du 91, du 93, du 94. Ils vont y aller, ils vont foutre le sbul.
Ah oui.
Ils vont foutre le sbul.
C'est clair.
Voilà. Tandis que dans le 93. Parce que, je suis taxi. À la fin des matchs du PSG, les gens me lèvent les mains. Et tout de suite, c'est quoi? C'est que des déplacements professionnels, c'est que des invitations.
Magnifique.
Direct.
Ah, magnifique.
Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr. Ah non, je suis taxi, je les vois les clients.
Ah ouais,
mais non, ils bougeront pas du Parc des Princes. Ça, c'est clair et net. Maintenant, attends, Nasser, t'as dit quelque chose de très bien.
Ouais.
Leur communication, elle est merdique.
Bien sûr.
Voilà.
Bien
tu sais pourquoi? Parce que les résultats, ils sont merdiques.
Oui.
C'est pour ça.
Ça suit, c'est vrai.
On n'a pas l'un sans l'autre.
Ils sont pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal ce qu'ils
voilà.
sont là.
Non, mais Nasser, à part une visibilité sur le championnat de France,
je parle en Ligue des Champions.
Oui, c'est vrai. Ils ont fait une finale Covid.
En Ligue des Champions.
Oui, perdu.
Ouais, merci. Nasser, ils étaient à 10 minutes, un quart d'heure de la Ligue Europa.
Ouais,
tu te rends compte?
Tout à fait d'accord avec toi.
À un quart d'heure.
Ah ouais, c'était pas loin.
Ça me rappelle la saison 2008 où ils étaient à 10 minutes de la Ligue 2. Tu te rappelles?
Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Comme quoi, Nordine, aujourd'hui, l'équipe du Paris Saint-Germain ne donne pas les garanties suffisantes pour gagner la Ligue des Champions parce que en prenant les joueurs les plus riches, enfin les plus chers sur le marché, ça affaiblit les
ils prennent pas les joueurs les plus riches de la Terre. Ils prennent que Mbappé, il n'y a que ça, il n'y a que lui qui défraye. Ils l'ont fait l'an dernier, mais cette année, c'est des joueurs lambda, joueurs qu'on connaît lambda.
Oui,
avec des joueurs lambda, tu fais quoi?
Rien.
Tu fais des résultats lambda.
Ouais.
Ben, c'est tout. Faut que tu saches quand même que le football appartient quand même aux grands joueurs.
Mais est-ce que tu crois que Mbappé...
Les gens qui mettront Modric au PSG, mettront Kroos, qui mettront des Valverde au PSG au milieu, là on va commencer à parler. Mais quand je vois ça et que tout le monde te fait croire qu'il y a une équipe phénoménale et tout, mais qu'est-ce que vous me prenez pour... Et quand t'as un ouf dans... Bref, excusez-moi.
Non, mais ils ont les médias avec eux.
C'est ça,
ils ont les médias.
Bien sûr, c'est clair.
Ils ont les médias, il n'y a pas de colonne vertébrale. Ils avaient Ancelotti, ils l'ont dégagé. Comment tu peux dégager un mec comme Ancelotti?
C'est clair.
On l'a tous pensé.
Mourinho, il a dit, vous avez Ancelotti, vous n'avez pas besoin de moi.
Là,
t'as Ancelotti. Le problème, c'est le président. Il fait n'importe quoi. Ils ont donné les pleins pouvoirs à un joueur qui fait n'importe quoi, qui ramène ses potes. Il y a quoi?
Aujourd'hui, tu te rends compte qu'aujourd'hui il y a Mbappé 2 en équipe au Paris Saint-Germain, excuse-moi du terme.
Ah oui.
Ben oui, il y a son frère maintenant.
C'est simple, la semaine dernière.
Ouais. Il y a maintenant le frère.
Écoute, c'est très simple.
C'est bon là.
Non mais attends, c'est du n'importe quoi que le PSG, parce que la semaine dernière, j'ai écouté les paris RMC, les paris RMC parient sur le pénalty de Mbappé. Il ne paraît plus sur les buts de Mbappé, sur le pénalty. C'est sur ça qu'ils parient maintenant. Tellement qu'ils sont à la ramasse. J'étais comme toi, mais moi ça me faisait rire. C'est du n'importe quoi cette équipe. Franchement, je dis honnêtement, ils vont jouer le jour de la Saint-Valentin, c'est bien ça.
Mais... enfin, ça va longtemps.
Ouais. Le mec qui a une fiancée, qui a une femme, qui a un zouège, mais reste au... mais vont rester avec ta femme, ne regarde même pas le match.
Ouais. Et je suis d'accord.
C'est même pas la peine. Ouais. Ils donnent même pas envie de regarder ce match. C'est clair. Voilà. Bref,
merci Nordine.
Merci beaucoup. Barcelone fait comme
merci.
Hein, continuez comme ça et
merci beaucoup.
À très bientôt.
À très bientôt. Bonne soirée. Alors, franchement, Nordine, il nous a tout dit là.
Ouais, il confirme ce qu'on dit. Après, maintenant, quand tu es dans les coulisses, comme tu peux l'être là, et que tu vois les choses de ton vivant, on va dire que oui. Ben après. La logique de Mbappé, on connaît bien. Ce qui s'y passe, on connaît. Bon, après, on va te sortir ce qu'on veut derrière, tu vois, pour t'alimenter. Un, le PSG n'a pas les plus grands joueurs du monde. Faut bien arrêter ça. Deux, ils ont peut-être l'un des meilleurs joueurs. En plus, moi, quand ils parlent du monde ou de je sais pas quoi, de la planète, de Mars, je sais pas, faut qu'ils m'expliquent c'est quoi les critères quand tu dis c'est le meilleur joueur du monde. Simplement, c'est qu'ils veulent mettre en place une politique, là, avec notre entraîneur, qui est là. Et bah tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Maintenant, on verra bien ce match-là de 8e, où là, tu vas avoir affaire à quelque chose de très costaud. Et on verra vraiment le PSG. Mais bon, je pense qu'ils vont être capables d'aller surmonter ces trucs-là pour sauver les finances du PSG. Dans un moment vraiment où ils sortent l'argent. Hein. Moi, il faut que tu m'expliques. Hein.
Alors, dans un instant, coach, pour la dernière partie de cette émission, il me reste encore un seul appel à prendre au téléphone. Donc, du côté du Standard, donc, merci de patienter à notre auditeur. Parce qu'après, on va parler quand même de cette CAN. Et puis, pour l'instant, la grosse sensation, c'est le Mozambique qui mène 2-1 devant l'Égypte à un quart d'heure de la fin. Cette première grosse sensation, restez à l'écoute. On finit l'émission d'aujourd'hui en beauté.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Dernière partie de cette émission Foot de sport très passionnante. On va prendre un dernier appel du côté de Standard avant d'analyser la serre les premiers résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a ouvert ses portes officiellement hier samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire avec le match d'ouverture Côte d'Ivoire Guinée Bissau. Après on revient sur ce match mais également sur le match entre le Nigeria et la Guinée équatoriale et surtout la sensation pour l'instant, je dis bien pour l'instant, que réalise le Mozambique. Le Mozambique qui à un quart d'heure de la fin mène 2-1 devant l'Égypte. Même maintenant, je dirais à 10 minutes de la fin. Je pense que d'ici la fin de l'émission, on vous donnera le résultat en sachant qu'il y a un dernier match ce soir où je crois que c'est à 21h. Et il me semble que c'est le Ghana. Oui, ce sera le Ghana face à la Côte d'Ivoire. Le Standard, on y va. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Votre prénom, s'il vous plaît.
C'est Sofiane de Foot de Sport.
Ah
non, les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Hein. Je vous envoie des informations, même pas ça donne la source. Je retiens, les gars, je retiens. T'as vu la serre, à force de traîner avec des Algériens, même moi, je veux de la reconnaissance. C'est pas vrai. Non, je me suis dit que j'allais intervenir, parce que t'as vu... Voilà, je chantais avec Mohan, t'as vu, c'est comme un camion en hiver, Mohan, t'as vu, c'est là, il est sur la gadoue, ça, tu vois, c'est faut pousser un peu la voiture, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Non, mais plus sérieusement, les gars, sur le PSG, j'ai écouté votre discussion.
Ouais.
Il y a l'auditeur Mokhtar qui a dit pas mal de choses. Maintenant, il y a quand même.
C'est Nordine qui a dit.
Nordine.
Ouais.
Excusez-moi, Nordine. Mm. Il y a quand même un truc, moi, qui me semble. Alors, déjà, je suis pas d'accord avec lui. Il faut quand même voir que, compte tenu de où partait le PSG sur le plan sportif en 2011. Mm. Le PSG aujourd'hui, c'est une marque mondiale, c'est un club qui est placé aujourd'hui, c'est un club incontournable en Europe. Et c'est un petit miracle de voir qu'un club comme le Paris Saint-Germain, qui est né en 1970, aujourd'hui, on ose le mettre dans la même phrase que le Real Madrid, que le FC Barcelone, que ce genre de club-là. Et ça, mine de rien, je pense qu'on peut en rendre grâce aux Qataris. C'est quand même, faut quand même le dire. Parce qu'on a l'impression qu'avec l'argent, on peut tout faire. Mais il fallait quand même le faire. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Moi, Nasser, je te rends hommage sur un truc. Quand tu dis que les Marseillais et les supporters de l'OM, il y a un lobby hispano-pied-noir qui est un peu d'extrême droite, un peu facho, qui n'aime pas trop les Algériens et qui est une base qui est une base voilà, de supporters là-bas, qui fait que ça bloque un peu Marseille.
C'est vrai.
Bah, c'est bien que tu dises, Nasser, qu'à Paris, il y a tout un lobby, un lobby 16e, médiatico-politique.
Oui, complètement, aussi, oui, bien sûr.
Quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, voilà, on voit un petit peu ces gens, voilà, comment ils pensent. Et c'est bien de le rappeler. Et effectivement, ces gens-là et les médias avec eux, bah, ça les arrange pas que le PSG ait son propre stade, sachant qu'en France, on n'a pas cette culture-là du club propriétaire de son stade. Je crois qu'en France, il y a deux clubs. T'as l'AJ Auxerre et t'as.
À Lyon?
Lyon qui est juste greffé, donc ça fait trois. Et t'avais Ajaccio qui avait son propre stade. Mais sinon, tous les clubs, c'est la municipalité. Mais l'anomalie, si on veut vraiment parler de football, c'est qu'une région comme l'Île-de-France qui a 15 millions d'habitants, mais qu'un seul club dans l'élite. Elle est là, l'anomalie.
Tout à fait, c'est une des anomalies.
Mais ça, Sofiane, on l'a toujours dénoncé, cette histoire de la capitale qui n'a qu'un seul club en première division. Quand il y a eu le Matra Racing, et tout a été fait pour casser à l'époque Jean-Luc Lagardère, hein, il faut le dire.
Mais regarde. Le problème, il est où? Moi, ce que je pense, c'est qu'à terme, je ne vois pas comment les Qataris peuvent rester à Paris. Je ne vois pas comment ils peuvent faire. C'est impossible d'acheter le Parc des Princes. On parle d'un bail amphythéotique de 99 ans. Pourquoi pas? Moi, j'ai l'impression que les Qataris sont en train d'essayer de sauf qu'ils peuvent, pour essayer de se barrer le plus rapidement possible.
Ouais, c'est pas une solution.
Je pense qu'à mon avis, cette histoire du stade, ça peut être le prétexte qu'ils attendent pour essayer de vendre leur vie. Si Mbappé part cet été, je vois pas du tout ce qui peut contraindre les Qataris à rester, sinon à rester un actionnaire, un peu passif, qui va mettre un peu d'argent. Qui va gérer le club avec 200 millions d'euros, former des jeunes, parce que l'Île-de-France, ils ont un centre de formation maintenant, qui va exporter les joueurs, et aller prendre un vrai club qui sera leur club A. Moi, je pense sur l'Angleterre, parce que les Qataris ont raté le coche, et aujourd'hui, c'est l'Angleterre où il faut aller. Tant qu'il n'y a pas de ligue fermée, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une table de poker pour les plus grands riches. La France, c'est une anomalie pour le Qatar d'être en France. S'il n'y a pas les réseaux de Sarkozy, il serait jamais venu. Hein. Et c'est pour ça que moi, à part le supporter de Marseille que je suis à court ou moyen terme, je vois pas comment un investisseur de taille XXL va venir en France.
Et c'est pour ça que, Sofiane, tu as raison sur un point. C'est pour ça que d'ailleurs cette histoire de négociation avec les Saoudiens pour Marseille traîne également.
Bah, le problème, c'est que déjà que vont faire les Qataris, ça c'est important. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour qu'un investisseur vienne, et Mohamed en a parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a que cette opportunité ligue fermée qui va apparaître, qui pourra faire venir les investisseurs à Marseille ou dans un club hors Angleterre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on en avait discuté avec Nasser en off au téléphone. Le problème de la Ligue fermée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, avec le championnat d'Angleterre, tu es en train de vider des très grands noms du football européen, comme le FC Barcelone. Aujourd'hui, financièrement, ils ne peuvent pas lutter. La Juventus, elle ne peut pas lutter, elle ne peut pas suivre. Aujourd'hui, des clubs comme Brighton, des clubs de seconde division anglaise, ils sont plus compétitifs que des clubs... des grands noms du football italien ou du football espagnol. Donc la seule solution pour sortir de cette impasse, c'est cette fameuse ligue fermée où là tout le monde serait à égalité. Et moi je pense que le PSG, les Qataris, je pense que Nasser Al-Khelaifi, lui, il observe un petit peu, c'est un homme d'affaires avisé. S'il y a la ligue fermée, il restera à Paris. Mais s'il n'y a pas la ligue fermée, moi, je pense que les Qataris, à moyen terme, je ne vois pas comment ils peuvent rester. Je vois impossible.
Oui, parce qu'en termes de business, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas le développer dans la mesure où il y a cette limitation de la capacité du parc à 48 000.
N'oublie pas que Khalafi est quand même président de la Ligue européenne. Je ne sais plus quel titre il a encore, lui. Oui. Il représente, il était contre cette fameuse Ligue fermée avec le Real Madrid. Oui. Il est en opposition. Ouais. Donc... L'amener à une dispute. Non, mais ce que disait, c'est très intéressant, et ce que disait aussi
Nordine,
c'est exactement ça. Le jeu, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le PSG est en train de prévoir pour prendre ses billets et partir. Oui, ça, j'y crois fortement, parce que là, ils ont tout fait, quoi. À partir du moment où t'as amené Messi, que tu as amené au PSG, t'as amené soi-disant l'équipe, la Dream Team, et que tu y es pas, et tu gagnes pas, tu gagnes toujours pas. Je sais pas s'ils vont s'amuser. Hein. Et quand tu vois les propos qui sont tenus, quand tu vois réellement la réalité de ce qu'est le monde politique en France aujourd'hui, et qu'il tient des propos comme ça, attention, ça va pas rester simple.
Oui, parce que attends, Smahali, Sofiane, excuse-moi, deux secondes. Comme l'a dit tout à l'heure Nordine, c'est pour ça que j'ai rebondi quand on a parlé sur l'histoire de Mbappé. Mais par rapport à Karim Benzema, Mbappé, tant qu'il est à Paris, il ne pourra jamais gagner 5 Ligue des Champions comme l'a gagné Benzema. C'est surtout
ça. Non, mais l'objectif, il n'est pas là. Ça, c'est pour Mbappé. Non, mais ça, c'est pour Mbappé.
Non, mais c'est pas pour Paris aussi.
Non. C'est pas la même chose. C'est pas la même. Mbappé, il sait où il doit mettre les pieds parce qu'il est dans son vrai business, il sait où il va gagner. Il sait aujourd'hui où il va gagner. C'est pas que le PSG qui va gagner les 5 avec ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est ça.
Ceux qui n'ont pas vu, qui regardent le match de ce soir, ils vont bien voir. ça, c'est autre chose. Ça, ce que je dis simplement, c'est que la mairie de Paris soulève le vrai problème du PSG. La vraie problématique est là. Et on le voit. Et Marseille, tu vois, tu te souviens, tu peux en parler. Marseille, il est propriétaire de son stade ou pas?
Non.
C'est un bail amphithéotique.
Ouais, d'accord.
Si tu veux, c'est une alliance entre Marseille, la CMA-CGM, et je crois qu'il y a un troisième acteur qui est dans l'histoire. Pour en gros,
c'est pas le groupe Orange, Sofiane?
Non, il y a un autre groupe, j'ai oublié le nom. Mais Orange, c'est pour le naming seulement du nom, c'est
d'accord, ok, très bien.
Tu vois?
D'accord, voilà. Ouais.
Mais Nasser, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir que t'as bien dit. Le problème, c'est que en France, la France. Concrètement, tu n'as pas de football. Tu n'as pas de football de club. Donc tu navigues à vue. Le gros problème sur lequel vont se porter les Qataris, tu parlais de la Ligue des Champions. Moi, je trouve que compte tenu de ce qu'est le football aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le football ne s'arrête pas, d'avoir tout le temps un club en 8e de finale de Ligue des Champions, tu sais, ça me fait penser à ce que tu dis. C'est là que je voulais en venir. J'ai oublié mon propos, j'ai perdu le fil. C'est Jean-Michel Aulas qui disait à l'époque. Dans une ligue de football, on est à la fois concurrent et à la fois partenaire. Et comme en France, on est dans un pays de jaloux, la France est un pays de jaloux culturellement, on est des jaloux. Et en Algérie, comme on a été 130 ans par la France, on est 10 fois plus jaloux. Le Français n'aime pas le riche, le Français n'aime pas celui qui réussit.
C'est connu.
Christophe Dugarry l'avait dit, il a dit j'ai été en Italie, j'ai roulé en Mercedes. Les mecs vont applaudir, en France ils me jetaient des cailloux. Problème, Bernard Tapie l'avait bien compris, pour faire progresser le football et faire progresser son Marseille, il a armé les investisseurs. Aulas avait voulu refaire ça au niveau de la Ligue. Mais en France, les Qataris voient possible. En France, on est sur les petits, Chiral, oh ils ont de l'argent, oh ils sont riches. Et ça en France on ne supporte pas. Et ça, c'est profondément ancré culturellement. Pour bouger ça, ça va prendre des générations. T'as Macron qui a essayé un petit peu. Quand tu parles des investissements, là on parle du Qatar. Il faut savoir que la Chine rachète tous les vignobles. Les Américains, rachètent énormément d'entreprises françaises. Mmh. On parle du Qatar, mais le Qatar, c'est beaucoup d'argent qu'aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre de refuser. Mais finalement, c'est dans l'air du temps. Il n'y a pas de capitaux en France. Donc forcément, c'est les capitaux étrangers qui viennent financer l'économie française. Tu n'as pas un modèle comme le modèle allemand où l'association possède les clubs.
Exact. Oui, Sofiane? Allô.
Comment on appelle ça?
Oui.
Ouais, je suis là.
Oui, parce qu'on avait perdu le fil. Ouais.
Ça a coupé.
Excusez-moi. Où t'as toujours, comment dire, les stades qui sont pleins, vrai modèle de compétitivité économique.
Ouais.
En France, il n'y a pas ça. Donc, effectivement, Nasser, c'est là ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, à terme, s'il n'y a pas de ligue fermée, s'il n'y a pas une perspective de croissance autre que la France, je ne vois pas comment le Qatar peut rester conditions-là. Dans un championnat, regarde, t'as bien vu. Le championnat, là, il est d'une indigence, t'as pas de concurrence, t'as rien, on nous avait annoncé Monaco, regarde, ils ont encore perdu hier.
Oui, j'ai vu.
T'as pas un club qui tire son épingle, il n'y a pas de concurrence. Or, comme disait Aulas, dans une ligue, on est concurrent et on est partenaire. Ce qu'a très bien conti le président de la Florentino Pérez, je pense que c'est pas dans son intérêt que le Barça soit mauvais pendant 4-5 ans. Il va tout faire pour que le Barça récupère des joueurs.
Bah, bien sûr.
En France, on n'a pas cette culture-là. En France, c'est la jalousie. Et tant qu'on sera dans cette optique-là, regarde, ne serait-ce que là, regarde les Saoudiens qui investissent énormément, tout de suite, les Saoudiens, ils ont l'argent, c'est la richesse. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est l'évolution du monde, c'est comme ça, c'est la mondialisation, c'est l'économie, mais en France, on l'accepte pas. Et ça, c'est une vraie limite. Hein. C'est une vraie limite qui fait que ça, par exemple, Bernard Tapie est allé en prison, c'est aussi à cause de ça, parce qu'en France, on supporte pas les mecs qui réussissent. C'est une réalité.
C'est clair.
Bah écoute Sofiane, merci vraiment pour toute cette argumentation. En tous les cas, finalement, ce sujet a vraiment suscité l'intérêt et l'adhésion de beaucoup de nos auditeurs. Ça montre également que Et puis ce qui me fait plaisir, c'est cette, cette culture générale de bon, Sofiane est quand même un consultant animateur ici à BFM. Aujourd'hui, la râle m'a caché ton mobile, comme on dit. Mais sinon, sur le principe, eh ben, on pourra te retrouver dimanche prochain si, si tu le souhaites. Hein.
Inch'Allah, avec plaisir. Si je suis pas en, si je suis pas en, en meilleure compagnie.
On a compris.
Laisse pas la serre.
Attends.
Ok. Merci Sofiane.
Bonne soirée Sofiane.
Salut les gars, peut-être que je vais vous capter au resto après.
Ok, avec plaisir. Hein. Merci, on t'attend.
Ouais. Salut les gars.
Salut. Oh, génial. Non, mais en plus, je ne m'attendais pas à ce que ce soit notre Sofiane.
J'ai mis 5 minutes à reconnaître sa voix.
Ouais. Ah non, mais dès le départ, elle a dit, c'est, ça, il a dit Sofiane, votre animateur. Ouais,
Sofiane, il y en a plein de Sofiane.
Ah non, mais j'ai tout de suite reconnu quand il a dit. Bien. Ah non, mais attends, notre métier d'assert, c'est la voix. Donc là, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Je regarde le timing. Effectivement, j'ai 2 minutes juste pour vous parler de ces résultats de la CAN. Alors pour l'instant, Nasser, nous sommes dans le temps. Alors juste rappeler que hier, qu'est-ce qui s'est passé? L'ouverture, victoire difficile, mais quand même 2-0, très classique de la Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Donc voilà, comme tu le dis, cette fameuse victoire d'ouverture qui fait toujours du bien au moral pour mieux se projeter.
C'est ce qu'ont pas fait l'Égypte quand ils ont en 2019, quand il y a eu la Coupe d'Afrique aussi chez eux. C'est compliqué, sous les matchs à domicile avec une telle pression populaire qui vivent derrière, c'est compliqué, qui gagne comme ils gagnent. Ouais. Ça montre déjà que tu as déjà un favori de fait. Hein.
Oui.
C'est clair. En plus, il y a prendre la confiance, ça risque d'être compliqué. Maintenant, nous, on va parler de l'Algérie parce que c'est demain.
Oui.
Et comme j'ai vu l'équipe B, la deuxième équipe qui a joué, qui était très intéressante, à mes yeux, personnellement, j'ai trouvé très intéressante. J'espère que demain, on retrouvera cette équipe-là aussi fringante que j'ai pu l'avoir à une période et dire qu'Inch'Allah, qu'on puisse porter un moment
dans faire quelque chose.
Ouais, montrer un moment qu'on existe, qu'on est là.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé contre Cameroun, c'était derrière nous, mais c'est pas derrière, c'est toujours devant.
Ouais. juste aussi rappeler que le Nigeria a été tenu en échec par la Guinée équatoriale.
Ouais, tout à fait.
Un but partout, donc là ça reste ouvert. Et puis nous sommes dans le temps additionnel, 90 plus 5. L'Égypte est toujours menée 2-1 par le Mozambique, ce qui serait la première grosse sensation de ce début de CAN. Vraiment, on s'y attendait pas. J'espère que le match va se terminer un petit peu avant la fin de l'émission. J'ai encore 1 minute 30 devant moi pour essayer de voir si l'arbitre siffle la fin du match. En tous les cas.
Mais bon, s'ils font comme l'Argentine, c'est pas grave. Ils vont perdre le premier match et ils vont aller gagner la Coupe d'Afrique. Mais bon, quand tu perds comme ça, il n'y a plus de petites équipes, on arrête pas de le dire. Mais là, aujourd'hui, on le voit encore. Si l'Égypte n'est pas à domicile, le Mozambique ne l'est pas.
Ouais.
Mais on voit quand même que les températures et l'humidité favorisent quand même tous les pays d'Afrique, tu vois, vraiment.
Parce que là, effectivement, le temps additionnel, il est de 7 minutes. Donc peut-être. Alors en tous les cas, ce serait, quoi qu'il advienne, la première grosse sensation. Voilà, il reste exactement 1 minute dans le temps additionnel. C'est le temps qui me reste aussi également ici sur l'antenne. Comme tu l'as dit, Nasser, ce soir, il y a Ghana face au Cap-Vert. Et l'entrée en liste de l'Algérie demain, je crois que c'est à 20h ou 21h en tout cas, c'est en soirée face à l'Angola. Voilà, c'est très très important, Nasser. C'est, comme tu l'as dit, ces fameux matchs.
Ben oui.
Qu'il ne faut pas louper.
Ouais, complètement. T'as pas intérêt. C'est ça que tu vas supporter.
Bon, on est tous derrière Belmadi et toute son équipe. Absolument. Et encore une dernière fois, avant de quitter l'antenne, vraiment un vrai message de fraternité aujourd'hui pour notre ami Nasser Guedjura. Khoya Nasser, j'ai pas de mots. Rabbi Rahma Ousali, c'est une douleur. Pour vous tous, que ce soit toi, ton épouse, tes autres enfants, Adeline qui est en Algérie au CRB, donc ce que nous pouvons vous dire. Merci, rendez-vous donc dimanche prochain, 18h-20h sur l'antenne de Beurre FM.
Beurre FM, bien plus qu'une radio.
Voilà, ce n'était pas prévu que je reprenne l'antenne pour, juste pour vous dire que l'Égypte a égalisé sur pénalité par Mohamed Salah dans le temps additionnel. Et en principe, normalement, le match devrait se terminer ainsi, 2-2 entre le Mozambique et l'Égypte. Merci de nous avoir prêté attention. Donc, comme je vous l'ai dit, rendez-vous dimanche prochain, 18h-20h, sur l'antenne de Beurre FM.